Ça commence bien. Quelqu'un dans le chat très gentiment m'a demandé le nom de l'artiste et de la chanson. J'ai commencé par lui répondre. Un mauvais titre et un mauvais artiste. Et après, j'ai corrigé, j'ai dit non, non, je me suis trompé. J'ai mis le bon nom de la chanson, mais toujours un mauvais artiste. Et alors que le chat, vous savez, plus que penser. Sommes-nous fous? Est-il trop vieux? J'ai fini par donner les bonnes infos. Désolé. Et pourtant, je suis réveillé depuis un petit moment. Elle va être belle, la revue de presse. Ah, pas bien réveillé? Si. Toujours fatigué? Hein, hier soir, j'étais fatigué. Hier soir, j'avais très envie de faire un peu de gaming, comme disent les jeunes. Mais une chape de plomb s'est abattue sur mes épaules. Le travail, tout ça, je sais pas. Suis allé au lit. Lire des journaux. Voilà. Mais jouer aux échecs. Non, tiens, on va pas lancer un arc échec ici. Ouais. Vous voyez mon niveau sur Valo? Ouais. Bah voilà, c'est j'ai le même, je pense. Et je pense que ça peut être le même arc. C'est-à-dire, je me lance dans les échecs et 1 an et demi plus tard, ou 2 ans, ou je sais plus, 3 ans. 3 ans, j'ai le même niveau qu'au début, quoi. Voilà. Mais c'est un beau jeu, hein. Les échecs, c'est très addictif, hein. Ouais. Comment ça va, vous? Comment se passe lundi de Pâques? D'ailleurs, vous avez vu, il y avait vraiment beaucoup de monde sur les réacts des auditions de l'Assemblée nationale, celle de Niel Pigas et nommé et de Nagui de l'autre. Alors, toute bonne chose finit par se terminer. Et du coup, je me dis, mais alors, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Autant, quoi. J'en parlais à mon épouse ce matin, je lui dis, c'est vrai on sent qu'il y a un truc marrant, voilà, le plaisir de commenter ensemble un truc, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas. Les enfants sont allés chercher les autres packs. Oui, bah, tous les trois. Je les ai envoyés ce matin. Non, c'était hier. Hier, tous les trois. Donc Malo, 9 ans, Solal, 6 ans, et Pio, 0. Enfin, un mois. Et ils sont parvenus encore. Donc, avec Hélène, on s'est donné 48 heures pour s'inquiéter. Parce qu'après, à cet âge-là, ils peuvent aussi être un peu débrouillards, quoi. Ça, c'est une façon aussi de les tester. Donc, voilà. Peut-être qu'ils ont trouvé beaucoup d'eux aussi. Voilà, donc, on attend un peu. React, l'île de la tentation. Alors, je sais pas, là. Mais en vrai, voilà. Alors après, il y a une autre audition que j'ai identifiée comme potentiellement intéressante avec les patrons de TF1, de Canal+, là. Enfin, je sais pas s'il y avait sous Canal+, mais il y avait notamment Rodolphe Belmer, tous ces gens-là. Et ancien de Canal, patron de TF1. En fait, alors c'est moins, waouh, c'est moins polémique, quoi, un peu. C'est moins Nagui, Niel, Pigas qui clash le rapporteur, mais sur le fond, sur comment fonctionne la télé aujourd'hui, ça peut être intéressant. Ah, il y a celle du Sénat sur les nouveaux médias, mais je sais pas si c'est la même envergure. Il y a une commission d'enquête, mais la actuelle? Ou l'ancien truc où le gars il avait claqué la porte au milieu de l'audition là. Dals, c'est un React, l'île de la tentation, mais version soft. Ouh, je vais pas React Dals, moi il faut les droits. C'est une nouvelle? Ok. Alors où est-ce que je vais trouver ça? Alors commission, Sénat, nouveaux médias? Celle de Drucker, très géniale? Ouais, pas top. Je suis allé voir les descriptifs. Avec Drucker et. Comment il s'appelle? Patrick Sébastien. Ouais, là, l'affiche est alléchante, mais d'après ce que j'en ai lu, entendu. Ouais. L'audition de Legrand et Cohen, effectivement, ça je ne l'ai pas faite et je pense que c'est un raté de ma part. Commission Nouveaux Médias, Sénat. Non, celle de Patrick Sébastien et de Drucker, elle était assez décevante, je crois. Oh, merci Sugar, je ne vais même pas chercher. Voyons. Vous ne voyez rien, c'est normal. Vous voyez ça, c'est normal. Vous voyez ça, c'est encore mieux. C'est la commission de la culture du Sénat. Dans le cadre de la mission d'information sur les zones grises de l'information. Ah oui, donc nouveaux médias. soit une crise de l'information. Présidé par M. Composition. Agenda, rapport et communiqué, compte rendu. Agenda. Ok. Okay ça, Tu pourrais débunker ce que Patrick Sébastien dit comme bêtise. Ouais, je préfère jouer à Valo. Disclose, Mediapart, c'est intéressant. Rivoir, c'est qui? Off, investigation. Gaspard G. Jean Massier? Ah, attends. Donc, Gaspard G. Ah, si, c'est intéressant. C'est quand, le 7 avril? Ah, c'est demain. Il y a Jean qui passe demain. Hugo décrypte. Ah, bah, si, c'est intéressant. On a les vidéos de ces trucs-là? Enfin, pas celle de demain. Hein. La présidente de l'Institut du monde arabe. Ah, c'est tout? Ça a commencé? Attends, ça va être... Ah, c'est les prochaines, ça. Vidéo. Salut Samuel. Ah, 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 tu me fais rire des fois. Salut, peau douce. C'est un peu l'objectif ici. Hein. On parle de choses sérieuses, mais on se prend pas trop la tête. Sinon, on va tous se tirer une balle. Brut. Loopsider. Combini. Alors, c'est... Média en ligne. Vous vous rendez compte? Il y a la CPPAP. Il y a la CPPAP qui a été entendue. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. L'avenir de l'audiovisuel français. C'est quand, ça? 11 février. Pas mal, ça. Mais, ah, c'est... Ah, par contre... Ah, mais ils mettent pas beaucoup de vidéos en ligne, par contre. Média en ligne. C'est pas mal, hein. Waouh, c'est génial, énorme le site. Je pense que les commissions du Sénat, c'est pas la même vibe, par contre. Ah, attends. T'es en train de dire que c'est un travail de qualité? T'es en train de dire que c'est un endroit où de bonnes questions sont posées et du coup, on a des réponses intéressantes? Ah, tu es en train de me dire que c'est une commission qui réfléchit à des trucs. Tu me dis que c'est une commission qui ne ressemble pas à un espèce de tribunal. Ah oui, donc c'est, oui, c'est forcément moins... C'est moins drôle. C'est moins drôle. Ok. Ouais, bah, y a un monde où... mais tu vois, le simple fait que messieurs Gaspard G, Jean Massier et Hugo Travers, Hugo décrypte, je n'ai pas de sous-titres. Ah, normalement, si. Normalement, maintenant, le gars lui ressource sur ma chaîne. Si tu peux activer les sous-titres à n'importe quel moment, tu dois avoir un CC quelque part. Hein, on est d'accord, on a activé ça sur la chaîne. Il n'y a pas de raison pour lesquelles ce soit déconnecté. Normalement, tu dois activer un petit truc, mais normalement c'est possible. Ça fonctionne, me dit Sugar. Voilà, normalement tu as les sous-titres, mais par contre faut que tu les mettes. Merci les amis. Je t'ai envoyé l'interview du président de la commission qui a fait ce matin chez Thomas Soto RTL. Alors, le président de la commission a interviewé Thomas Soto ce matin sur RTL. Et tu parles de quelle commission? Tu parles de celle de... Tu parles de Monsieur Alloncle? Monsieur Alloncle reçu sur RTL? Attends. Alors ça doit être quelque chose, ça. C'était Banger? Tu me l'as envoyé où? Tu me l'as envoyé où? Attends, tu me l'as envoyé où? Où est-ce que tu m'as dit ça? Ah, Jérémy! Ah, le président! Ah, le président! D'accord. Et c'est... Vous dites que c'était Banger, c'était intéressant, pourquoi? Qu'est-ce que ça a dit? Qu'est-ce que ça a dit? Allez, ça leak. Tu focalises sur Alonc. Non, Bruno, c'est juste factuel. 90% des questions sont posées par le rapporteur qui s'appelle Monsieur Charles Alloncle. Alors, on peut s'intéresser aux 5% restants, mais en fait, c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui fera le rapport. Donc, c'est pas une focalisation, c'est juste c'est là que ça se passe, quoi. Après, je peux interviewer le gars de la buvette à l'Assemblée, mais ce sera moins intéressant, quoi. Il demande un changement des règles de la commission. Ah ouais? Ah ouais. Il n'est pas content de la forme actuelle de la commission et de l'attitude du rapporteur. Ah ouais? Ah bah je veux bien le lien alors. Ok. Ça c'est intéressant parce que jusqu'ici, publiquement, le président ne s'est pas... désolidarisé tellement du rapporteur. Alors il y a eu des petites piques assez malines d'ailleurs. ou parfois même des fâcheries, ils se sont fâchés tous les deux. Mais en 4 mois, finalement, pas tant que ça. Mais de mémoire, je crois que c'est la première fois que le président donc prendrait, enfin, critiquerait de façon publique hors commission, donc dans les médias, RTL par exemple, le fonctionnement de la commission, quoi. Ça, c'est très intéressant par contre. Parce que ça nous éclaire aussi sur comment ces commissions sont constituées. Par exemple, j'ai un viewer qui m'a envoyé un message sur LinkedIn, façon très sympathique, peut-être que tu es là, qui m'a dit, c'est dommage cette commission, parce que bon, tout le monde a compris maintenant que cette commission ne portait pas sur son sujet, que c'était qu'elle était instrumentalisée par le rapporteur pour un agenda politique personnel. Et donc du coup, on passe à côté de l'essentiel. Et le viewer me dit, ah, c'est dommage, parce qu'en fait, il y a des vraies questions à poser sur l'audiovisuel public. Son avenir, merci Sugar, son fonctionnement, sous ses améliorations, et que même si c'est parfois abordé, mais c'est pas l'essentiel, quoi. Voilà. Et il me disait aussi, ce viewer, que le règlement des commissions fait qu'on ne pourra pas recréer une commission sur le même sujet avant un an. Voilà. Donc, il disait, c'est dommage. Parce que c'est pendant. Qui m'écrit? C'est la famille. Ah bah tout va bien. Il y a. Trop mignon. Trop mignon. C'est ma petite sœur. Alors attends. Bon, faux départ pour la revue de presse, mais on va aller voir ça. Il y a un tweet, il y a un tweet. Vous êtes fort. Hein. Vous êtes fort. Alors. Si je puis me permettre, l'arrêt sur l'image ne profite pas tellement au président de la commission. Ça, c'est le problème des vignettes, hein. C'est pas très 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 sympa. Et effectivement, tweet de LCP sur le réseau du Chétan X. Il faut revoir complètement les règles de fonctionnement des commissions d'enquête. Le député Patrick Lettus appelle à clarifier les règles des commissions d'enquête parlementaires. Il rappelle le rôle essentiel de contrôle de l'État et des services publics, mais estime nécessaire de mieux encadrer leur fonctionnement. Ok, intéressant. Et Sugar, je sais que tu m'as mis aussi un lien vidéo. Que voilà.
Votre entreprise n'utilise que 20% de ses
J'adore les pubs, moi.
données. Vous pourriez chercher partout les 80% restants ou les retrouver en un seul et même endroit. HubSpot. Avoir toutes les données fait toute la différence.
Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air top, HubSpot. Ça a l'air top.
Rendez-vous sur HubSpot.fr.
HubSpot. Tiens, je vois une voiture aussi, c'est bien les voitures.
Je demande combien vaut ma voiture.
Ouf, bah, si. Bah, elle est toute propre, en tout cas toute shiny. Combien ça vaut, ça, je sais pas moi.
Vendez votre voiture.fr peut vous le dire.
Mais c'est Franck Leboeuf!
C'est très simple et rapide.
Oh, incroyable!
Il suffit de saisir les détails de votre voiture et
non.
Vous recevez un super prix. Waouh, tant que ça.
À mon avis, elles vont 11 900 euros ta voiture. En plus, elle est toute shiny, toute belle.
Je vous l'avais dit, c'est facile.
Mais il prend une com. Il accompagne quand même le mec jusqu'au garage, hein, Franck Leboeuf. Hein? Il prend une com ou quoi? Sur la voiture là.
Obtenez maintenant le meilleur prix sur vendezvotrevoiture.fr.
Thomas Soto.
À 10 minutes. À 10 minutes, ça va être long. Mais par contre, tu m'as dit que peut-être le tweet était plus court. La vidéo mise en avant par le tweet était plus court. On va aller voir tout de suite. Vous êtes incroyable. Quelle qualité, quelle qualité, quelle qualité. On y retourne, donc du coup, hop, on va écouter ça.
Pour revoir complètement les règles de fonctionnement des commissions d'enquête. Elles sont importantes. Je crois qu'il faut revoir complètement les règles de fonctionnement des commissions d'enquête. Elles sont importantes. J'y suis attaché. Le visuel public, vous êtes donc retrouvé à la tête d'une commission d'enquête où le rapporteur, l'UDR Charles Alloncle, a des objectifs politiques.
Bon, on voit que l'analyse qu'on a faite ici sur cette commission, sur... Je répète, l'instrumentalisation de cette commission à des fins d'agenda politique personnel. C'est pas une analyse qui est perdue dans le vent comme ça, dans l'hyperespace. Manifestement, elle est partagée par la plupart des gens qui ont réfléchi sérieusement à cette commission, à son travail. Ici, on a quand même RTL à une heure de grande écoute qui dit « Bon, je vous laisse écouter. »
L'UDR Charles Alloncle a des objectifs politique claire.
Bon, bah maintenant tout le monde a compris. Hein.
En tout cas, c'est ce qui ressort de ses interventions dans les auditions.
Ah oui, ici c'est LCP, pardon.
Et tous vos efforts n'y ont rien changé. Il y a plusieurs auditions où ça s'est un peu transformé en tribunal politique.
C'est vrai que le garçon ressemble pas à Thomas Souto.
Et c'est pas la première fois que ça se passe dans une commission d'enquête. Est-ce que on touche pas aux limites de l'exercice?
Vous avez raison. Je crois qu'il faut revoir complètement les règles de fonctionnement des commissions d'enquête. Je l'ai dit à la présidente de l'Assemblée nationale, je crois qu'elle a engagé aussi un travail de rationalisation du travail parlementaire. Mais il faut aujourd'hui, dans ce contexte politique particulier, qu'on en tire des leçons et des enseignements. Et je pense qu'il est temps de revoir le fonctionnement de ces commissions d'enquête. Elles sont importantes. J'y suis attaché.
Ben oui.
Moi, je trouve que c'est essentiel d'avoir des lieux où on peut contrôler l'État, contrôler les entreprises publiques, les services publics.
Ben oui.
Mais il faut que ça se fasse avec des règles uniformes,
ben oui.
universelles, qui permettent au président de ces commissions d'enquête de pouvoir cadrer les débats, organiser les travaux. Et aujourd'hui, les règles, elles ne sont pas tout à fait claires. Et donc, c'est important, je pense, effectivement, d'en tirer les leçons.
Pas mal, c'est pas mal. Pas mal. OK. Il y a un monde où l'interview sur RTL, on pourrait l'écouter.
Je crois qu'il faut revoir complètement les...
Mais 10 minutes, ça va être long parce que j'ai beaucoup de choses dans la revue de presse ce matin. Je vous lis. Il faut faire une commission d'enquête sur les commissions d'enquête. Alors ça, j'ai vu un tweet de... Comment s'appelle l'ancien CEO de la CAC Corp déjà ? Je vais remercier les subs dans un instant, pardon. Arthur Perticose, il a fait ce tweet, ouais. Il faudrait une commission d'enquête sur les commissions d'enquête. Ouais, exactement, ouais. Bon, je suis assez d'accord. Moi, je me suis... Vu ma situation, comme j'étais auditionné, et vous connaissez le... ma piètre opinion du travail de cette commission, enfin du rapporteur pour être tout à fait précis. Donc j'ai évité de le faire ce tweet parce que ça aurait encore mis le feu, mais pour le coup je suis d'accord avec monsieur Perticos. Est-ce que j'ai un énorme sommaire ce matin. Camille, merci à l'instant pour ce 50e mois d'abonnement. Oh my god, 50, je me rappelle encore de l'époque où les subs n'étaient pas ouverts, me dit Camille. Camille, 50 mois, ça fait attends. Ça fait beaucoup, non ? Il faudrait que je fasse les nouveaux badges là pour parce que vous êtes très très loin quand même. Merci Jalo, merci pour le 6e mois, merci Kalindi pour le 56e mois. Donc c'est-à-dire que certains se rapprochent de 60 mois. 60 mois, c'est 5 ans. Il faut que je fasse un badge des 5 ans. Il n'y a pas de badge des 5 ans, je crois, pour l'instant. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de badge des 5 ans. Pop, 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 pop. C'est ça, c'est. On est au maxi. Incroyable. Kalindi, merci pour le 56e mois, donc. Aurélien, pour le 35e mois. Adrien, pour le 48e mois. C'est énorme, vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui soutiennent la chaîne depuis 5 ans. C'est incroyable, en vrai. C'est fou. X Lucina, merci pour le Prime. Xion, Adamska, To the Best. Chrono SPS2, Colocol, Uri Young. Merci beaucoup. 56 mois. Merci, Captain Oui-Oui. Toi aussi, t'es à 56 mois, Captain Oui-Oui ? Waouh ! Il paraît que le badge des 10 ans permet de passer une soirée avec Samuel. Le badge des 10 ans permet de passer une nuit avec Samuel Etienne. T'imagines ? Oh, le scamuel encore ! Oh. Bon, c'est dans... Ça va, c'est dans 4 ans. J'ai le temps d'expliquer le concept à Hélène. Alors, excuse, Hélène, faut que tu... J'ai un truc à te dire, c'est parce que en vrai, c'est par rapport à là, tu sais, il y a des gens qui suivent depuis 10 ans, c'est vraiment beaucoup de fidélité, enfin, c'est incroyable, les gens qui suivent depuis 10 ans, quoi. Et donc, alors, j'ai imaginé un remerciement. Alors, faut que j'explique le concept quand même, parce que ça peut surprendre comme ça. Comme ça, ça peut surprendre. Alors, d'abord, il y a un contexte. Il y a un contexte. Moi, j'aime contextualiser, tu le sais. Alors. Discussion. Oh, les discussions. Merci Côtelette, merci Toby le Fou. Il y a des subs qui tombent là, c'est super bizarre. Waouh. C'est incroyable. Un concept novateur. Oui, ah, oui, oui, bah oui, oui, oui. Ah bah là, ça va donner un titre dans les journaux, ça. Pour les 10 ans de sa chaîne, Samuel donne de sa personne. Pourquoi je prends une voix de radio FM pour lire un titre qui pourrait être un titre dans le journal Le Monde, par exemple? Ça n'a aucun sens. Alors oui, ah oui, Terranir. Exactement. Alors, chérie, tu vas rire. Enfin, tu vas rire. J'espère que tu vas rire. Ah ouais, ce serait drôle. C'est incroyable. Merci, Soul of Bleach. Merci encore pour les streams sur l'audition de Niel Pigas. Et nommé, tu as aussi le replay désormais du react de Nagui. De Nagui. 7 heures, plus de 7 heures. Je suis allé voir les commentaires sous le replay. Il y a beaucoup de un commentaire sur deux, c'est « Ah oui, 7 heures !» Parce que normalement, une audition aussi longue, on l'a fait en deux. Puis là, c'était trop bon. On a commencé à 18h à des brouettes et c'était trop bien. Donc, on l'a fait d'une traite. Voilà. J'ai fait 7 heures de react. En gros, une minute de vidéo, ça donne 2 minutes de react, quoi. Donc, par pitié, que quelqu'un fasse un montage best-of de tous, c'est impossible. L'audition de Nagui, c'est un best-of déjà. L'audition de messieurs nommés Niel et Pigas, c'est un best-of. Il n'y a rien à enlever, il n'y a pas de gras. C'est toutes les minutes, il se passe une masterclass, si tu veux. Tu ne peux pas faire un best-of d'un best-of. Voilà. Et puis. non, 7 heures. J'ai pas vu l'interview de Nagui dans le quotidien, mais par contre, il paraît qu'elle est top. 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 Non, c'est super. Donc, vous l'avez tout ça en replay. Ouais. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je vous fais après, quoi. Encore une fois, je pense que les auditions des patrons de chaînes ces derniers jours, notamment Rodolphe Belmer, ça peut être intéressant. Mais après. Après. Hein. Qu'est-ce qu'on fera après? Du gaming. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit appétit quand même pour... les choses qui nous permettent de comprendre quel fonctionnement un petit peu de notre république et de notre démocratie finalement. Donc on n'aura pas toujours des trucs de cette intensité, mais voilà, je suis en réflexion sur tiens, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on est aussi nombreux à s'intéresser à ce sujet. Voilà, la Zilane va être annoncée dans quelques jours, effectivement, je l'ai noté. Ouais, il y a la Zilane. Est-ce qu'on peut dire que les replays de la commission te rapportent des centaines de millions d'euros? Des centaines de millions d'euros? Ouais, tout à fait. Ouais. Avec quelque part de l'argent public. Hein. Oui, j'ai bien noté qu'il y avait la Zidane qui arrivait. Alors, est-ce que je me relance dans une troisième édition consécutive de la Zidane? Est-ce que tu as pris le temps de manger un morceau pendant les 7 heures du réactant? On l'a fait au café et au coca. Zéro. Non. Donc, voilà. Je pense, on sera avec l'accord de Zera qui m'avait donné l'an dernier. Zera, il dit, ouais, vous avez le droit de react, les amis, en direct. Mes annonces de la Zilane, il n'y a aucun problème et tout. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, je redemanderai comme à Zera si je peux le faire. Moi, je n'aime pas faire de react... d'un contenu sans demander l'autorisation. Enfin, je ne le fais pas, même. Sauf pour les auditions de l'Assemblée, là. C'est vraiment sur une matière publique. Tout le monde trouve ça normal. Donc je demanderai. On fera le react. Et puis, on décidera quasiment en direct. On décidera quasiment en direct. Si on l'a fait ou pas. Je dis si on l'a fait. Parce que du coup, ça impactera... Faut pas que je le rate, par contre. Dimanche pro, tu dis? C'est dimanche pro, ça impactera cette chaîne parce que si y a Zilane, il y a un mois d'entraînement encore. Ouais. Personne ne m'a prévenu que c'était férié aujourd'hui, pas cool, me dit Silta. Silta est allé au travail ce matin. Silta a mis son réveil, c'était dur, hier c'était dimanche. Elle a pris un café, avait les yeux collés, voilà, a renversé son café, s'est cogné le petit doigt, un petit orteil dans le meuble, voilà. C'était une sale journée, t'es allé au boulot, t'as trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue, t'es arrivé au boulot, et là la porte était fermée, tu te dis c'est vraiment une journée de merde, voilà. Et t'as appelé, personne ne répondait, et tu t'es rendu compte que c'est normal, c'était férié. Enfin, c'est ce que t'as dit le mec de la sécurité qui est sorti au bout de 20 minutes. Ouais, et au retour, t'as marché dans du caca, exactement. Force. Ah. C'est férié aujourd'hui, c'est la fête de quoi? Alors moi, malgré mon éducation chrétienne et catholique, hein, je suis breton, donc c'est difficile d'y échapper chez moi. Je suis plus trop au courant de cette histoire-là. Alors, d'après mes infos, mais tu vérifieras, aujourd'hui c'est la fête du chocolat. D'après mes informations, en tout cas, c'est ce qu'ont m'ont rapporté mes enfants. Voilà. Oh, un SMS. Ah, c'est l'ami Joe. J'ai déjà répondu, mais pose des questions sur est-ce que une info que j'ai pour une personne à qui j'ai déjà donné l'info, voilà, c'est, on perd du temps là. Bon, je peux pas vous dire à haute voix parce que c'est un secret. Ce matin, allez, j'espère que Joe est sur le chat. Là, ce serait bien parce que là je perds du temps. Je n'avais pas encore les photos de X et Y, je pourrais vous dire. Oh, perdu du temps. Pas. De machin et machine, je peux rien vous dire. C'est qui merde. Ouais. Désolé, hein. J'attends. Le retour de leurs agents en ce week-end de Pâques. Ça y est, ça me revient. C'est pas que chocolat. De Pâques. Pas évident. Je lui ai demandé de voir ce qu'elle pouvait faire. Excusez-moi. Hein. De son côté. Voilà. Il faut absolument que j'embauche des gens pour m'aider. J'y arrive pas. Ce matin, j'ai vu un pauvre gamin avec son cartable. Attends, il y a des parents. On arrête. Stop, stop, on arrête tout. Il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants à l'école. Il y a des parents non seulement qui sont allés au boulot alors que l'entreprise était fermée, qui ont envoyé leurs enfants à l'école. Oh non, t'as vu un gamin avec un cartable? Oh merde. Il se passe des choses graves dans l'actualité, mais ça c'est... Waouh! Oh, oh waouh. Au moins un, j'étais triste pour lui. Mais attends, il était tout seul? Tu es allé le voir? Il y a Fifouin-Noin qui dit au moins un, j'étais triste. Mais est-ce que t'es allé le voir? T'es allé le voir? Tu l'as laissé aller à l'école? Il était sur le retour, il avait le nez sur les chaussures, il était triste. Est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il était assis sur un banc? Est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il était en train de jeter ses cahiers et ses cartables dans la poubelle? Qu'est-ce que tu as fait? Il revenait de l'arrêt de bus? Il revenait à la maison, donc? Ou il va trouver porte close parce que ses parents sont partis au boulot alors que l'entreprise est fermée? Oh, mon Dieu. Oh là là, quelle tristesse. Et après, on me dit, tu rapportes que des mauvaises nouvelles. Mais vous aussi, hein. C'est comme ça que débute la délinquance, me dit Sugar. Incroyable. Vous êtes 2000 à écouter mes bêtises. Hein. Là, je viens de jeter un œil aux viewers. Vous êtes plus de 2000 à écouter mes bêtises. Il serait peut-être temps de mettre fin à ce sommaire. Hein. Je vais vous donner un petit peu d'actu quand même. Mais vous êtes sérieux avec vos e-stories? T'as un pseudo, toi? Il y a des... Void de N9CEAK Vince. C'est-à-dire que pour écrire ton pseudo, t'as tapé ton clavier avec ton front? Alors non, on n'est pas sérieux avec nos histoires, juste avec nos e-stories. On est sur Twitch, donc justement, on aime dire des bêtises. Pourquoi tu travailles un jour férié, Sam? Attendez, c'est férié aujourd'hui? Attendez, c'est férié aujourd'hui? Ah, mais on me dit rien aussi. Ah bon, bah... Non mais nous, vous... Bon bah. Eh ben bon lundi de Pâques.
Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire?
C'est pas cool.
Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool?
Oui.
C'est pas cool, c'est ça que tu dis?
Bah...
L'alcool, c'est pas cool?
Oui, c'est pas cool.
Quoi? C'est pas cool?
Oui, j'ai dit que c'était pas cool.
L'alcool, c'est pas cool?
Non, c'est, bah pas,
non,
cool.
C'est pas cool.
Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool?
Voilà. Bon, bah, puisque je suis là, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour un sommaire, bande de beaux gosses? Let's go! On y va? Allez, sommaire, parce que là, ça fait 35 minutes d'intro. Normalement, la règle sur cette chaîne, c'est que l'intro, c'est-à-dire les bêtises, ça dure 30 minutes et pas une minute de plus. On a 35 minutes. Allez, on sommarise. Let's go! Let's go! À une époque, en radio FM, pardon, encore une parenthèse. À une époque, en radio FM, sur les radios FM. Waouh, le... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce sommaire? Mais tes mains, la taille du sommaire, bordel! Quoi? Bon, laisse tomber. Oh putain. Il n'est pas réveillé, Joe. Hein. À l'époque, en radio FM, les gens parlaient, les animateurs parlaient comme ça. Wins, bonjour à tous, bienvenue sur NRJ, tu vois, un peu comme ça. Moitié fête foraine, moitié je te vends des trucs sur les marchés. Ah, mais bon, voilà, ça, maintenant c'est un peu plus sobre quand même. Avec une voix un petit peu nasillarde et tout. Quoi, y a un, attends, merde, il y a un titre nouveau sujet. Ouais, ça va pas du tout ça. Ouais, bah, on va cliner déjà ce sommaire. C'est pour ça qu'il est si gros, c'est parce qu'il y a des lignes qui n'ont rien à faire là. Ok, je relis. Sommaire, Iran, USA, l'escalade. Les infrastructures iraniennes de plus en plus... Ça, il manque un mot, c'est civil. Ouais, eh bien non, il n'y a pas que Joe qui n'est pas réveillé. Hein. Voilà. L'impact... C'est ça le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'infrastructures civiles en Iran tapées. C'est assez affreux, quoi. L'impact économique de la guerre inquiète l'Europe, ça c'est intéressant aussi. Comprendre les affaires, Rima Hassan, les affaires, et là on ira voir le Huffington Post pour lequel j'ai pas de logo, parce que je me disais, j'étais pas convaincu par les articles que je trouvais ce matin sur l'affaire Rima Hassan. Je suis allé voir ailleurs, je me suis dit peut-être du côté de Mediapart, et finalement c'est sur le HuffPost que j'ai trouvé un article qui était assez clair. Des voitures incontrôlables. Les gourous de l'IA, épisode 7, 8, 9. Jeux vidéo et bien-être. Parce que le jeu vidéo, c'est bien pour nous. Voilà. Sur le jeu, voilà. On n'aura jamais le temps de lire tout ça. On n'aura jamais le temps de lire tout ça. Ça ne va pas. Bon, on y va. Sans plus attendre. Voilà. Désolé, c'est encore là. Voilà. Ok, t'es parti. T'as oublié la... Oh, la pandémie. Ah oui, au cœur de la prochaine pandémie. Oh, enfin, après, vous savez, ici, on aime les gros sommaires, parce que les gros sommaires, ça nous donne plein d'actu, et en plus, ça nous permet d'éviter les accidents industriels à l'antenne. Faut avoir la ref. Ok, c'est parti. 38 minutes d'intro. Eh ben, on est bien. Alors, on va dire bonjour à nos amis qui nous écoutent en podcast, parce qu'en podcast audio, ils n'ont pas le sommaire. Hein. Le gros sommaire, ça n'est que sur Twitch. Bande de privilégiés, va. Ok, c'est parti. Let's go. 3, 4. Sommaire, sommaire. Vous allez voir le changement de ton. Là, on rentre dans le sérieux, là. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. Nous sommes le lundi de Pâques, a priori, 6 avril 2026. Voilà, j'ai oublié que c'était férié aujourd'hui. Je suis venu au bureau, je suis venu bosser pour vous proposer une petite revue de presse. Enfin, une petite revue de presse. Gros sommaire, j'ai plein de choses à vous raconter dans l'actualité. Je dis bonjour à ceux qui nous écoutent en live sur Twitch. Je dis bonjour à ceux qui nous écouteront en replay sur YouTube. Je dis bonjour à ceux qui vont nous écouter aussi en replay, en podcast audio, parce que cette revue de presse, désormais, elle est depuis la rentrée de septembre, qui commence à être un petit peu lointaine maintenant, sur toutes les plateformes de podcast audio, les Deezer, les Spotify, les Apple Podcasts. Voilà, vous êtes très nombreux, vous êtes des milliers à écouter cette revue de presse tous les jours en podcast audio, ça me met en joie. Selon une source Assemblée nationale, commission sur l'audiovisuel public, vous ne seriez pas des milliers, vous seriez des millions même, mais cette information demande à être vérifiée. Alors, le sommaire de quoi je vais vous parler aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actu. C'est assez intéressant, sinon passionnant, vous allez voir. Évidemment, on va se pencher sur la guerre en Iran. Hop, je vous ai mis plusieurs articles de côté pour voir où on en était. L'article du Parisien d'abord, au titre inquiétant, il n'y a pas que le titre qui est inquiétant. États-Unis et Iran en pleine escalade. Trump a menacé d'attaquer les ponts, les centrales, mercredi, si le détroit d'Hormuz, le fameux, ne rouvrait pas. Voilà. Je vais vous lire un extrait d'un tweet du président américain. On n'est pas le 1er avril, ça n'est pas une blague. Il a dit, il a écrit, deux points, ouvrez les guillemets, ouvrez le putain de Détroit. Espèce de taré. Où vous vivrez en enfer. Vous allez voir, en lettre capitale, point d'exclamation. Ça n'est pas une blague, ça n'est pas inventé. Nous ne sommes pas le 1er avril. Le président américain a réellement écrit ces termes. Voilà. On a l'impression. Bon. Pourquoi s'inquiéter ? C'est la sécurité mondiale qui est en jeu. Les tensions sont gigantesques sur le plan diplomatique, militaire et économique. Et le gars s'exprime comme dans une cour de récréation en primaire. Voilà. Écoutez, on en est là. Deuxième article, là aussi inquiétant, en Iran, les infrastructures civiles de plus en plus visées. On s'interroge toujours sur les buts de guerre, les objectifs de guerre de ce conflit et des frappes israélo-américaines. Est-ce pour libérer le peuple iranien ? Est-ce pour inciter le peuple iranien à se révolter et à déposer le régime islamique ? En tout cas, aujourd'hui, ce qui est frappé, c'est le peuple iranien, avec des frappes étendues aux ponts, aux aciéries, aux structures liées au secteur de la santé, hein, le plus gros centre de production de vaccins a été frappé. Donc on a un peuple qui va être privé d'une grosse partie des vaccins dont il a besoin dans les prochains mois. Essentiel pour la population, je pense qu'il était essentiel de lire cet article. Voilà. Et puis un dernier volet sur cette guerre en Iran ce matin. Quelqu'un me disait « Ah mais on a l'impression que c'est la même actualité tous les jours ». Hélas non. Alors c'est le même conflit qui se poursuit, mais les informations évoluent. Et là on a des Européens qui s'inquiètent de plus en plus de l'impact économique de cette guerre. Hein, on n'est pas que sur le prix du pétrole, on n'est pas que sur les taux d'intérêt, on est sur une économie globalement qui pourrait être impactée avec des conséquences que ça aura sur le chômage, sur le pouvoir d'achat. Voilà. Donc grosse page Iran ce matin qui est vraiment passionnant. Alors là on est sur la prospective, je crois qu'on peut dire ça comme ça, vous le voyez, un article dans Le Parisien, au début je me suis dit oh là, ça va être chiant, mais passionnant sur Le Parisien a imaginé, c'est vraiment de l'actualité fiction, à quoi pourrait ressembler la prochaine pandémie ? Parce que les scientifiques disent un jour on va reconnaître une pandémie à nouveau comme comparable à celle du Covid et du coup ça bosse dessus. Des scientifiques du monde entier anticipent la prochaine crise sanitaire afin d'être le plus réactif possible le jour J. Dans ce récit de fiction qui se déroule en 2030, plusieurs d'entre eux nous aident à imaginer ce qu'il en sera concrètement. Et c'est passionnant. C'est à la fois rassurant parce qu'on voit qu'il y a des gens qui bossent dessus. Et à la fois inquiétant parce que ces scientifiques disent un jour ça se reproduira. Voilà. On se dit on a déjà une pandémie de conneries mondiales. Ouais, mais celle-là elle compte pas parce qu'il n'y a pas. Celle-là, les scientifiques ils ont lâché l'affaire. On n'aura pas de traitement sur ça quoi. Merci Karjakal. Kajerkal. Kajerkal. C'est comme Karjaké l'auto, mais Karjakal au féminin. Merci Fefego, merci Alex Kevin, merci Côtelette, merci Toby le Fou, merci, vous êtes incroyable. Pardon, je lisais un message. Nos voitures sont-elles incontrôlables ? Qu'est-ce qu'il va nous parler de bagnole encore, le vieux là ? Au début, c'est pareil, je me suis dit, quoi cet article ? Mais parfois, il faut vaincre son préjugé sur un article et. Et en fait là c'est pareil, j'ai lu l'article et au final c'est intéressant. Alors, nos voitures sont de plus en plus bourrées d'électronique, hein, et de lignes de code et de plus en plus d'IA et c'est formidable et en même temps c'est super inquiétant. Il y a des usagers, des automobilistes qui commencent un peu à râler et il est pas dans le sommaire. Ah je vous l'ai pas mis, ah putain je l'ai oublié de vous le mettre. Ah je vous le mets. Cette revue de presse va se terminer à 19h. Allez, nouvelle ligne. Alors, pas de code. Hein. Mais si, des voitures incontrôlables, je l'ai sous les yeux. Mais s'il y est, mais vous êtes... Mais il y a des gens qui sont bourrés de leur soirée de samedi. On est lundi matin. Qui a écrit ça? Il est écrit, il est écrit. Qui m'a écrit ça? Camille. Camille qui est bourrée de sa soirée de samedi. On est lundi matin. Il est quelle heure? 9h51. Donc voilà, des voitures incontrôlables, donc nos voitures de plus en plus bourrées d'électronique, et il commence à y avoir des inquiétudes, il y a des accidents, des voitures qui pilent toutes seules sur l'autoroute, et puis il y a et on se dit ouais non c'est des gens qui inventent pour l'assurance tout ça, puis, il y a des mécaniciens, des experts qui disent bah si si il y a des problèmes, bon voilà, donc c'est un peu inquiétant cette histoire, voilà. Maintenant il y a des marques qui vendent des voitures bourrées d'électronique, hein, comme toutes les uns, et qui ont un bouton pour tout déconnecter. En disant, donc l'argument de vente c'est oui, alors monsieur, là je vous vends une voiture, c'est le top du top, c'est bourré d'électronique. Et là tu dis, ah ouais, mais justement, j'ai entendu vous savez, le vieux là le matin, on comprend pas trop ce qu'il dit là, sur Twitch là. Il dit que ça peut être dangereux et tout. Alors vous inquiétez pas, on vous vend aussi un bouton pour tout déconnecter. Ok, c'est assez passionnant, ouais. Et alors, là je veux faire plaisir à certains. Vous savez que j'avais entamé la lecture dans Le Monde d'un feuilleton passionnant sur les gourous de l'IA, ceux qui prophétisent que l'IA, ça va être formidable, et ceux qui prophétisent que l'IA, ça va être monstrueusement dangereux. Voilà, donc il y a toute une série dans Le Monde passionnante, en plusieurs épisodes, en 9 épisodes. Eh bien, je rattrape mon retard, parce que je ne vous ai pas lu les derniers épisodes. Aujourd'hui, épisode 7, 8, 9, voilà, pour comprendre un peu mieux la révolution de l'IA. Ça bosse ou pas? Voilà. Et puis un dernier papier pour qui vous fera plaisir sur le jeu vidéo. Voilà. Il fut un temps où les médias disaient pique-pendre des jeux vidéo. Ça a un peu changé, sauf pour vraiment les gens qui comprennent rien à rien. Et en même temps, il en reste. Là, on a un papier de 2 pages dans Libé qui nous dit le jeu vidéo, ça peut participer au bien-être des vieux. Voilà, voilà des gens à peu près de ma génération là, mais aussi des jeunes. Voilà, donc ça devrait vous faire plaisir. En même temps, c'est vrai. Voilà. Point. Retour chariot, retour à la ligne. Est-ce qu'on peut avoir l'avis sur l'affaire CNC Talent? Oui, tu peux avoir l'avis. Tu peux avoir l'avis. Je ne sais pas de qui, mais tout à fait. N'hésite pas. Alors oui, alors c'est vrai qu'on voit cette photo, on se dit que pour, comment dire, sensibiliser nos concitoyens les plus âgés aux jeux vidéo, c'est vrai qu'il va y avoir, manifestement, à en croire cette photo, il y a encore un peu de travail sur notamment la technique, l'utilisation des manettes. Voilà. Ouais. À moins qu'il s'agisse d'une petite blague pour le photographe, je crois que c'est plutôt ça. Mais la photo est toute mignonne. Vous ne moquez pas, hein, c'est une vanne. Pique-pendre, expression difficile à caser dans un repas de famille. Et pourtant. TikTok, bonjour à tous. Est-ce qu'un journal a fait un état mondial de la crise pétrolière? L'Australie est en grande difficulté. L'Asie rationne les sacs poubelles. Le Pakistan descend dans les rues car plus de carburant. Nous en avons parlé ici. Nous en reparlerons, bien sûr. Batra, Chauduc, ce sont tes voisins dans ton EHPAD, Samuel? Je t'emmerde. Voilà. D'autres questions? N'êtes pas sur France 3 ici, hein. Si tu viens me chercher avec des vannes de merde, tu vas me trouver, hein. Je vous lis, c'est mon petit plaisir du matin, et puis on va commencer à trouver de presse, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai mal dormi, j'ai bu du café, le parfait mélange pour une revue de presse totalement what the fuck. Ok, let's go, on va bosser un petit peu. Je vais bien, tout va bien. Je me souviens de toi, débutant en jeu vidéo, tu n'en menais pas large. Je n'en mène toujours pas large. J'adore les gens qui... C'est une jolie expression, ne pas en mener large. En vrai, c'est joli. Ça change un peu, hein. Ça fait plaisir. Je n'en mène toujours pas large. Hein, mon niveau est toujours claqué au sol. Mais le plaisir est là. Salut, enclencheur. On y va? Est-ce que j'ai votre go? Capsule, salut Mathieu. Capsule. Ouais, bah, oh, putain, les grands esprits. Mathieu, qui gère la chaîne YouTube, me dit, est-ce qu'on ferait pas une capsule YouTube sur le premier sujet? Ouais, mais complètement. Alors après, est-ce qu'on fait les 3 infos sur l'Iran? Ou que l'escalade? Parce que les 3 infos sur l'Iran, ça va nous prendre, Mathieu, grosse demi-heure, je pense. Et si je te fais juste le premier sujet, l'escalade, qui est déjà en soi complètement fou, ça fait 10 minutes. On fait quoi? C'est à Mathieu que je demande, les autres, je m'en fous. T'es pour YouTube. C'est Mathieu le boss. Les autres, oui, il n'y a rien à faire. Non, rien à foutre. Mathieu, c'est toi qui décides. Oui, tu n'as rien à faire les trois. Je m'en fous, c'est Mathieu. C'est Mathieu qui décide. C'est lui qui gère la chaîne. Non, mais on s'en fout, hein. Je m'en fous de votre avis. Mathieu. Mathieu! Les trois, c'est possible? Ok, let's go. Bon, ok, je fais ça alors. Bon, on y va alors. Je suis vulgaire ce matin. Ok, c'est parti. Let's go. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch, le rendez-vous de l'actu tous les matins. Même en ce lundi de Pâques. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas travailler, donc je suis venu quand même. Et on voulait absolument partager avec vous, amis de YouTube, eh bien, ces dernières infos sur l'Iran. Parce que, pour le dire simplement, dans ce conflit, il se passe des dingueries. J'ai trois articles à vous montrer et croyez-moi, les trois sont vraiment essentiels et passionnants. À supposer qu'on peut dire passionnant pour quelque chose d'aussi grave. Le premier, c'est cet article du Parisien qui nous parle d'une escalade dans ce conflit. Avec le président américain qui décide, qui menace désormais d'attaquer les ponts et les centrales mercredi, dans deux jours, si le détroit d'Hormuz ne rouvrait pas. Va-t-il le faire? Ne le fera-t-il pas? Bon, il est habitué aux menaces, quitte à reculer après, c'est même une méthode qu'il assume, on verra. Je vous lis l'article d'Anissa Amadi, dans un message truffé d'insultes. Donald Trump a menacé de frapper les centrales énergétiques et les ponts en Iran mercredi si le détroit d'Hormuz, hein, passe une grosse partie, vous savez, du trafic pétrolier mondial, de l'ordre de 20%, et aussi du gaz, n'est pas rouvert d'ici là. Et là, deux points, ouvrez les guillemets, je n'invente pas ces mots. Il les a vraiment prononcés, en tout cas écrits sur Internet. C'est bien le président américain qui parle, vous n'êtes pas prêts. Trump a écrit... Deux points, ouvrez les guillemets, ouvrez le putain de détroit, c'est une traduction, hein. Espèce de taré, les tarés c'est les Iraniens, où vous vivrez en enfer, vous allez voir. Point d'exclamation, a écrit le président américain. Dans notre langage, nous on dit, on appelle ça le fou du bus. Quelques jours plus tôt, il annonçait pourtant aux Américains, allergiques aux guerres interminables, que l'opération prendrait fin d'ici deux ou trois semaines. Du Trump tout craché, oscillant sans cesse entre menaces et discours rassurants. Cette fois, un événement historique explique en partie ce brouillard habituel. Vendredi, l'armée américaine a pour la première fois dans ce conflit perdu deux avions et deux hélicoptères abattus par l'Iran. Deux pilotes ont été rapidement secourus. Un troisième demeurait introuvable en terre ennemie. Vous le savez sans doute si vous suivez l'actualité, il a été finalement récupéré au terme d'une opération rocambolesque digne d'une mission impossible. Donc effectivement, ce soldat aujourd'hui a été récupéré, ce militaire. Ce copilote, si je ne dis pas de bêtises, celui qui est chargé des systèmes embarqués sur l'avion. Ce qui aurait pu être un désastre politico-militaire se transforme en victoire. Sur les plateaux télé, des généraux à la retraite soulignent la complexité, la dangerosité de la mission de sauvetage que seuls les États-Unis sont capables de mener. C'est une opération assez complexe. Et du coup, certains en profitent. Voilà. L'admiration efface l'humiliation. La pièce aurait pu tomber du mauvais côté. Militaire américain tué, militaire américain capturé par les forces iraniennes, hein. Mais avec moi les États-Unis ont de la chance, croit Donald Trump, cette bonne fortune ne va pas le calmer du tout, renforce mécaniquement une forme d'hubris, d'outrance, de démesure. Salut à Rock Gamer, merci beaucoup pour ton soutien, alimenté par le dépit. Il voit que le régime iranien ne cède pas, donc il menace d'aller toujours plus loin, résume un chercheur, David Rigolet-Rose. L'Iran a fait savoir qu'il ne se plierait pas à l'ultimatum, décrivant le président américain comme instable, énervé et stupide. Plusieurs observateurs du conflit s'inquiètent du risque de forte escalade. En réalité, elle a déjà commencé, écrit le Parisien ce lundi matin. Des usines pétrochimiques ont été touchées en Iran, en représailles une usine de dessalement et deux centrales électriques ont subi des dégâts au Koweït. C'est comme s'ils avaient anticipé l'échéance de mardi soir. Une nouvelle étape a déjà été franchie. Le Koweït qui dépend à 90% du dessalement d'eau de mer pour survivre. Le sujet de l'eau encore plus sensible que celui du pétrole. Cela pourrait pousser les pétromonarchies, donc les pays du Golfe, à entrer en guerre. Parce que ces frappes de plus en plus lourdes contre les pays du Golfe, là on parle d'une usine de dessalement par exemple, de l'eau, pourrait laisser certains penser que les pays du Golfe vont faire pression sur les États-Unis pour que cesse le conflit. Voilà. Ou c'est l'inverse. Hein. Les pays du Golfe qui, au fil de ces dernières années, ont constitué des forces militaires parfois importantes à grand renfort d'investissement, pourraient tenter de rentrer à leur tour dans le conflit. La guerre d'infrastructure fait craindre une ukrainisation de la région. L'administration Trump ne saisit pas... Alors, ukrainisation, je trouve que c'est pas très clair. Est-ce que... Parce qu'en fait, l'Ukraine... Ouais. Ah oui, le fait que d'autres pays interviennent. Alors, je trouve que c'est un peu impropre, parce que dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, enfin bon, la résistance de l'Ukraine à l'invasion russe, pour dire les choses, vous avez des pays qui sont associés, effectivement. Mais pas directement. C'est-à-dire par un soutien, livraison d'armes, financement. Quoique vous avez des soldats nord-coréens, mais bon, à la marge. Donc là, on parle quand même de pays du Golfe qui rejoindraient l'armée américaine et israélienne dans leur frappe. Mais je pense que vous avez raison. C'est plus pour le côté enlisement du conflit. On est à plus de 4 ans de guerre en Ukraine, que ce concept d'ukrainisation évoqué par le Parisien renvoie. Alors, ce qui serait une catastrophe pour l'économie mondiale, parce que vous savez que l'économie mondiale, et notamment européenne et française, sont déjà touchées, voilà, et pas qu'un peu. Voilà. Si on part sur un conflit de plusieurs mois, et pas plusieurs semaines, comme pourtant l'a annoncé le président Trump, voire plus de plusieurs mois, on va avoir des conséquences dans notre quotidien. Merci le Porco Rosso, merci. L'administration Trump ne saisit pas pleinement ce qui motive la République islamique, déplore sur X le chercheur israélien Dani Citrinovitch, un spécialiste du Moyen-Orient. Parce que notamment dans ses tweets, Trump dit « Mais je comprends pas pourquoi ils se rendent pas. Tu comprends pas parce que je crois que tu ne fais pas d'efforts, quoi. Pardon. Hein. » Face à la pression, l'Iran est plus enclin à escalader qu'à céder. Trump... Pardon, je ne suis pas un spécialiste de la région, mais c'est dans le logiciel du régime islamique depuis toujours. Hein. L'affrontement avec... il suffit de se pencher sur l'histoire de la région et des relations avec les États-Unis. Les États-Unis, depuis toujours, pour le régime islamique iranien, c'est le grand Satan. Ils vivent notamment par ce bras de fer, quoi. Donc c'est pas du tout... Face à la pression, l'Iran est plus enclin à escalader qu'à céder. Trump devra décider escalader davantage ou arrêter. Mais une chose est claire, l'Iran est peu susceptible d'ouvrir l'étroit d'Hormuz, même dans des scénarios extrêmes tels qu'une opération terrestre sur l'île de Karg. Est-ce que l'ukrainisation ne désigne pas des frappes russes sur des infrastructures énergétiques centrales nucléaires en Ukraine ? Et oui, centrales... Oui, tout à fait. Malgré la puissance américaine, les systèmes de commandement de l'Iran demeurent intacts. Cela se traduit par des tirs de missiles continus, moins nombreux mais plus précis, une défense aérienne encore active. Les Américains et Israéliens pensaient avoir détruit la défense aérienne iranienne. Manifestement, une partie demeure, sans doute cachée, enterrée, dit-on. Voilà. D'où les destructions récentes d'appareils américains. Ce qui émerge alors n'est pas un chemin vers la fin du conflit, mais une trajectoire vers l'expansion, trajectoire qui augmente le coût militaire et économique pour les États-Unis est gigantesque actuellement. Hein. Trump vient de demander une rallonge gigantesque au Congrès pour la défense américaine, pour l'armée américaine. Voilà. Argent qui ne sera pas fléché vers autre chose, hein, la santé, l'économie, le soutien aux entreprises. Une trajectoire qui augmente les coûts, l'incertitude et les risques systémiques sans offrir un état final stratégique clair. L'entourage du président participe à cette myopie. Voilà. La chef de cabinet de la Maison-Blanche aurait demandé que Trump voie moins d'adorateurs zélés et davantage de militaires chevronnés. Selon le Time, elle s'inquiéterait du fait que les conseillers du président lui disent ce qu'ils veulent entendre, quitte à déformer la réalité sur le terrain. En parallèle, c'est pas tout, le secrétaire d'État à la Défense, ancien journaliste, si je ne dis pas de bêtises, Pete Hegseth, notoirement inexpérimenté, vient de mener une purge au sein de l'armée. L'ex-présentateur de Fox News a limogé le 2 avril le chef d'état-major de l'armée de terre. le général Randy Rodge, George, pardon. D'après ce que j'ai lu, on ne sait pas bien pourquoi d'ailleurs. Jusqu'à présent, ni Donald Trump ni Pete Hegseth ont été capables d'expliquer comment la guerre prendrait fin. L'armée la plus puissante du monde bute sur les villes souterraines de missiles iraniens, je vous le disais. Le seul moyen de la neutraliser, c'est avec des armes nucléaires. Le seul moyen de les neutraliser, ce serait avec des armes nucléaires. Trump oserait-il ? Là, ce matin, en lisant cet article, je me suis arrêté un instant. Là, j'ai eu 10 secondes, je me suis dit, hein ? Il n'aime pas ça et pour l'instant, aucun signe ne le montre, explique Étienne Marcus, spécialiste de la dissuasion nucléaire. Pour le chercheur, cette option, l'utilisation d'armes nucléaires, est toutefois plus crédible qu'une invasion terrestre. Dans tous les cas, sont de mauvaises options. Ça m'a réveillé ce matin quand j'ai lu ça. Ce serait la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis Hiroshima, Nagasaki, qu'on utiliserait l'arme nucléaire dans un conflit militaire, quoi. Voilà. On en est là. Donc quelqu'un me disait tout à l'heure, oh c'est bizarre, l'actu, c'est un peu tous les jours la même chose. En termes de tension, ça, on monte un peu, quoi. Voilà, donc ça c'est le premier article. J'en ai deux autres à vous proposer pour éclairer un petit peu l'évolution de ce conflit, parce que c'est toujours le même conflit, mais il est en train de se transformer. Et là, on a un article du Monde, cette fois, qui nous dit que, eh bien, après surtout des infrastructures militaires frappées, eh bien, les frappes israéliennes et américaines frappent de plus en plus des infrastructures civiles, y compris des infrastructures de santé. Ouais. Iran, les infrastructures civiles de plus en plus visées, les frappes se sont étendues aux ponts, aux aciéries, aux structures liées au secteur de la santé, essentielles pourtant pour la population. Voilà. Quels sont les buts de guerre de Trump? On n'a jamais trop su, puisqu'il a dit des choses contradictoires. Est-ce une guerre pour le peuple iranien? L'article qui suit nous permet d'en douter. Au lendemain de l'allocution télévisée du président américain Trump, mercredi 1er avril, dans laquelle il promettait de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, déjà dans cette déclaration de la Maison-Blanche, quand il promet de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, pardon, hein, mais il ne parle pas du régime islamique. Il ne parle pas du régime des mollahs. Il n'a pas dit « je vais renvoyer le régime des mollahs, le régime islamique, les dirigeants de ce pays à l'âge de pierre ». Il dit « je vais renvoyer l'Iran à l'âge de pierre ». Le pays, les Iraniens, les Iraniennes. Voilà. Donc au lendemain de cette allocution, l'Institut Pasteur d'Iran, alors qu'il n'y a pas de lien avec notre Institut Pasteur, hein, c'est le même nom mais il n'y a pas de lien, l'Institut Pasteur d'Iran, le centre médical et de santé publique le plus ancien, le plus prestigieux du pays du Moyen-Orient, situé à Téhéran, a été gravement endommagé lors d'une attaque aérienne. Ni les États-Unis ni Israël n'avaient, samedi matin, revendiqué cette frappe. Mardi, des frappes distinctes avaient touché une entreprise qui est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques d'Iran, spécialisée dans la production de médicaments anticancéreux et d'anesthésiques, selon Téhéran. Le lendemain, l'armée israélienne a affirmé que cette société touchée figurait parmi les principaux fournisseurs de fentanyl de l'organisation SPND, qui est le programme nucléaire à possible dimension militaire de l'Iran, pour être utilisé dans la recherche et développement d'armes chimiques. Ça, c'est l'explication d'Israël. Jeudi, un pont suspendu en construction reliant Téhéran à Karaj sur la route qui mène jusqu'à la mer Caspienne a été bombardé à deux reprises par des avions américains. Selon des médias iraniens, au moins 8 personnes ont été tuées, près d'une centaine blessées, parmi lesquelles des familles venues pique-niquer à l'occasion de la fin des vacances du Nouvel An iranien. Quelques heures plus tard, cette fois, cette attaque a été revendiquée par Trump. Le plus grand pont d'Iran s'est effondré, ne sera plus jamais utilisé. Notre armée n'a même pas encore commencé à détruire ce qu'il reste en Iran. Ensuite viendront les ponts, puis les centrales énergétiques. A-t-il prévenu, assumant, c'est ce que je vous disais, une confusion entre le régime et les moyens de subsistance de la population. Quand il dit qu'il va renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, il parle du pays. Il parle du pays. Les États-Unis ont lancé les premières frappes contre les infrastructures civiles majeures en Iran avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Trump pour lundi 6 avril. Trump qui paraît s'étonner que Téhéran n'ait pas encore accepté un deal. Puisque, et il l'assume, lui, il fonctionne comme ça, Trump, depuis toujours. Homme d'affaires devenu président, on fait des deals. Voilà. Il ne comprend pas que Téhéran n'accepte pas son deal. Pourquoi n'appellerait-il pas ? Nous venons de faire exploser leurs trois plus gros ponts la nuit dernière. Trump, il attend un coup de fil de l'Iran qui dit « Ouais, en fait, vous êtes trop fort pour nous, quoi, on laisse tomber. » Sauf que, a priori, dans le logiciel iranien, ça n'a jamais marché comme ça. Quoi. Voilà. De son côté, Israël a frappé assez tôt dans le conflit des installations civiles, notamment des centres de soins. Mais sa priorité opérationnelle demeurait d'affaiblir le régime et d'encourager les Iraniens à le renverser après-guerre. Les autorités de l'État hébreu affirmaient alors, de manière relativement plausible, écrit Le Monde, que les forces armées et de sécurité intérieure iraniennes s'étaient réfugiées dans des centres civils pour poursuivre leurs activités, loin des quartiers généraux bombardés un par un. À mesure que les frappes s'étendent à un nombre croissant d'infrastructures civiles, ces arguments, estime Le Monde, également perdent en crédibilité. Les premières frappes israéliennes contre des dépôts de carburant près de Téhéran, puis contre un champ gazier, ont suscité les premiers désaccords avec Washington, parce que Washington est extrêmement inquiet de l'explosion du prix du cours du brut, et frapper le pétrole iranien, ben, ça contribue à cette crise. L'administration Trump, craignant une hausse brutale du prix de l'essence, avait exprimé sa désapprobation. Depuis, les frappes se sont accentuées. Les deux principales aciéries du pays ont été frappées fin mars, début avril. Le signe d'une perte de confiance dans l'hypothèse d'une révolution iranienne, alors que l'ambition initiale consistait à affaiblir le régime afin de permettre à des manifestations populaires de le renverser après-guerre. Est-ce que l'un des objectifs de guerre des Américains israéliens est toujours de libérer le peuple iranien ? De créer des conditions pour que les Iraniens puissent se soulever, descendre dans la rue et déposer le régime, Le Monde dit aujourd'hui, manifestement, cet objectif, à supposer que ça a été un objectif, est oublié. La priorité semble se déplacer vers d'autres buts, alors que la guerre a déjà duré plus longtemps que la plupart des experts militaires israéliens ne l'imaginaient, la destruction méthodique du complexe militaro-industriel de l'Iran, la nécessité de satisfaire Trump en cessant un temps de viser les principaux responsables du régime et ses potentiels négociateurs, celle de faire plier l'Iran pour le contraindre à rouvrir le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, l'objectif de cette guerre, aujourd'hui, à court terme, c'est de faire ouvrir le détroit d'Ormuz. L'idée était peut-être au début de susciter des divisions au sein du régime et de faire douter les officiers de la sécurité intérieure, voilà, avec une scission en interne, hein, avec peut-être un coup d'État, pour favoriser un coup d'État. Mais plus la guerre dure et touche les civils, plus cet objectif s'éloigne, assure Shahar Kaufman, ancien chef du bureau Iran de la division de recherche du renseignement militaire israélien. Ces hommes, on parle des cadres du régime, vivent aujourd'hui de grandes heures de résistance. Lorsque nous visons les infrastructures, ils ne défendent plus seulement le régime, mais aujourd'hui le pays. Selon une ONG, Human Rights Activists New Agency, les frappes contre l'Iran ont fait 1606 morts civils, dont au moins 244 enfants, et 1212 morts militaires. Plus de morts civils que de morts militaires. Par ailleurs, vous avez 709 décès supplémentaires qui font l'objet d'une enquête. Je ne vous lis pas tout l'article, je vous lis le passage le plus essentiel. L'extension du ciblage aux structures civiles essentielles, comme celle du domaine de la santé, soulève des inquiétudes croissantes sur le plan du droit humanitaire. Jeudi, plus de 100 juristes américains, dans une lettre co-signée par des professeurs des universités, se sont alarmés de sérieuses violations du droit international et de la rhétorique alarmante de Washington. L'inquiétude s'étend au secteur sanitaire. Vendredi, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dénoncé les multiples attaques visant des établissements de santé, précisant que plus de 20 de ces attaques contre les structures de santé ont été vérifiées. L'article le disait au début. Fondé en 1920, l'Institut Pasteur d'Iran, sans lien direct avec son homologue parisien, est désormais hors service. Ce centre fournissait plus de 50% des vaccins du pays, produisant annuellement plus de 15 millions de doses, principalement pédiatriques, tuberculose, poliomyélite, hépatite. En détruisant ou en paralysant l'Institut Pasteur, ce n'est pas seulement une capacité de production qui disparaît, c'est tout le système de surveillance microbiologique, de prévention des épidémies, de réponse sanitaire d'urgence. Voilà. Selon un professeur de la faculté de médecine du groupe hospitalier universitaire de Paris-Créteil, la PHP, qui s'appelle Iraj Sobani, qui est peut-être d'origine iranienne, il dit en cas aujourd'hui d'atteinte au réseau d'eau potable ou d'assainissement, le pays serait exposé à un risque majeur de catastrophe infectieuse, notamment en temps de guerre ou de catastrophe naturelle. Voilà. Voilà où on en est de ce conflit aujourd'hui. Donc, encore une fois, la personne qui me disait « Ah, j'ai l'impression que l'actu, c'est un peu tous les jours la même chose », bah, pas trop, non. Pas trop. Voilà. C'est l'escalade dont parlait le Parisien tout à l'heure. Je vous lis et j'enchaîne. Le détroit n'est pas si fermé que ça, certains bateaux passent. Oui, les bateaux que veut bien laisser passer l'Iran, tout à fait. Je te lis, je vous plaît, je lis tout le monde. Je lis tous les commentaires pertinents. Je ne les cite pas tous parce que on serait trop long, mais... Merci, Charoblard, ça fait bien plaisir. Merci pour ton message. Commentaire pertinent. Ouais, je te lis, Virus. Question pertinente justement de Void 2, et c'est quoi ton pseudo là, Vince là, je t'appelais Vince. Est-ce que le peuple iranien ne peut pas renverser le gouvernement? Ils vont tous mourir si ça continue malheureusement. Alors c'est compliqué de renverser un gouvernement quand les bombes tombent sur le pays, quoi. C'est-à-dire que descendre dans la rue sous un tapis de bombes, c'est compliqué. Descendre dans la rue alors que le régime est toujours au pouvoir et s'est même radicalisé avec des moyens de répression toujours présents, c'est compliqué. Le contexte pour que les Iraniens descendent dans la rue, il n'est pas favorable, quoi. Ce qui pourrait se passer, c'est ce qu'espérait a priori Trump, c'est un coup d'État de l'intérieur, par exemple de cadres du régime qui pensent que il faut mettre fin à la guerre, mais c'est pas ce qui semble se dessiner. On verra. Je vous lis, hein. Troisième article sur le même sujet, les conséquences économiques. Là, depuis plusieurs semaines que dure le conflit, on s'est déjà dit que plus le conflit allait durer, toc, 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 plus le conflit allait durer, plus les conséquences économiques allaient être fortes, quoi. C'est pour ça que Trump régulièrement annonce que « Mais putain, c'est sûr, je suis sûr, j'ai coupé le Wi-Fi, là. Faut arrêter les notifs. Mon iPad, il reçoit des notifs d'Internet Wi-Fi coupé, quoi. Ouais. Et après, on nous dit que tout ça, la technologie, l'IA est sous contrôle. Je dis non. On est en train de se bouffer. C'est Skynet et Terminator. Hein. Ça, dans deux minutes, ça va sonner à la porte. Bonjour, où est Sarah Connor, quoi. Je vais leur dire, c'est la porte en face. Donc, stop. On est en train de se faire bouffer. Hein. Et donc, Trump annonce régulièrement à destination des marchés que la guerre va s'arrêter. Bon, ben là, ça dure. Troisième article ce matin. On y va. L'impact sur l'Europe et des Européens qui s'inquiètent de plus en plus. Choc énergétique, spectre de l'inflation, croissance ralentie. Voilà. Les indicateurs de mesure des répercussions du conflit au Proche-Orient donnent des sueurs froides aux autorités de l'UE. Lisons. Article de Clément Solal, correspondant à Bruxelles, du Parisien. Un conflit lointain. Hein. Je me rappelle, au début de la guerre en Iran, il n'y avait pas beaucoup, mais il y avait une ou deux personnes qui passent dans le chat, en disant « Mais pourquoi on parle de l'Iran? C'est loin, c'est pas notre guerre, ça nous concerne pas. Il faudrait mieux parler des vrais problèmes de la France. Tiens, cet article est pour toi. Un conflit lointain qui ne devait pas durer et dont les perturbations sur le commerce du pétrole et du gaz affecteraient surtout l'Asie. C'est d'abord ainsi que les dirigeants européens ont évalué l'impact de la guerre en Iran déclenchée fin février par les États-Unis et Israël. Les jours passant, ils ont compris que Trump n'avait pas le début d'une stratégie pour mettre fin aux hostilités. Ils ont aussi compris que si les pays asiatiques sont les plus exposés à la crise, aujourd'hui économiquement, quelqu'un parlait du Pakistan tout à l'heure, il y a des vraies conséquences économiques là, radicales là-bas, le vieux continent ne sera pas épargné. Le vieux continent, c'est nous. Hein. Fin mars, Bruxelles a pris conscience de la gravité de la situation, une série de premiers indicateurs statistiques donnant corps au choc économique en cours. L'inflation, le mois dernier, en zone euro, a bondi de 1,9% à 2,5%. C'est le plus haut niveau depuis début 2025. Les prix dans l'Union européenne ont augmenté d'environ 62% pour le gaz, 60% pour le pétrole. Voilà. Et cela pourrait encore enfler dans les prochaines semaines, l'ampleur des dégâts s'annonçant proportionnelle à la durée du blocage du détroit d'Hormuz. Là, littéralement, on ne dit pas merci à Trump, quoi. Hein. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que les prix de l'énergie se répercutent sur d'autres secteurs. L'alimentation, les biens, dit un économiste. Le spectre de l'inflation, par exemple, qui avait déjà miné les économies européennes en 2021, entre 2021 et 2023, reprend des couleurs. L'UE risque de subir un choc stagflationniste. Donc c'est l'enfer, c'est le pire. C'est des prix qui montent. Voilà, et en même temps, une croissance ralentie. D'après l'UE, la croissance pourrait ralentir en 2026 et 2027 jusqu'à 0,6 points de pourcentage par rapport à 2025. Un coup de frein potentiellement majeur pour l'Europe qui aurait des répercussions sur la consommation, sur les finances publiques, sur l'emploi. Un pays comme la France, avec son endettement, la charge de sa dette, voilà. Aujourd'hui les caisses sont vides. Les caisses sont vides, les taux d'intérêt et donc la charge de notre dette explosent, voilà, et on nous dit que ça va s'aggraver. Voilà. Je suis venu avec plein de bonnes nouvelles ce matin. Si la situation devait dégénérer en un conflit régional à grande échelle, les pays du Golfe par exemple qui se mettraient à taper sur l'Iran, elle pourrait peser sur l'Allemagne et l'Europe encore plus lourdement de ce que nous avons connu avec la pandémie. Alors je ralentis cette phrase parce qu'elle est importante. Peser sur l'Allemagne et l'Europe encore plus lourdement que ce que nous avons connu avec la pandémie de Covid-19 ou au début de la guerre en Ukraine. Voilà. L'Allemagne est très dépendante du pétrole et du gaz, notamment parce qu'ils n'ont pas nos centrales nucléaires. Les rares qu'ils avaient, ils ont essayé de les fermer. L'Italie, très dépendante du gaz étranger aussi. Voilà. Justement, a prévenu le chancelier allemand Friedrich Merz le 30 mars. Friedrich Merz, donc le chancelier allemand, qui souhaite que cette guerre se termine le plus vite possible. L'Allemagne, première économie de l'UE, serait la première à pâtir d'une guerre longue. Son industrie, déjà en grande souffrance, est très sensible au prix de l'économie. Certains disent que l'Allemagne, c'est aujourd'hui un pays, l'homme malade de l'Europe. Hein. L'économie allemande, elle est très impactée. Son industrie souffre beaucoup. C'était la grande force de l'Allemagne par rapport à la France très longtemps. C'était la force de son industrie avec la France qui était un pays de moins en moins industriel, l'Allemagne qui était toujours. Aujourd'hui, l'industrie allemande, avant cette crise, hein, elle est impactée. C'est un peu compliqué. Et donc, on a des chiffres de croissance en Allemagne qui sont en train de se détériorer. Et c'est pas une bonne nouvelle pour nous, hein, parce que c'est la première économie de l'Union européenne. Quand l'Allemagne tousse, toute l'Europe tombe malade. La mauvaise politique du président Trump a un impact direct sur le portefeuille des citoyens, a dit encore le ministre des Finances allemand. Italie, je vous en parlais, deuxième puissance industrielle européenne devant la France. Contrairement à la France, pays très dépendant du gaz, le ministre italien de la Défense a expliqué que les effets de la guerre en Iran sur l'économie et notre vie quotidienne l'empêchaient de dormir. Aveu de faiblesse rare, tant les responsables politiques s'efforcent généralement de rassurer les consommateurs, les entreprises, conscients que l'économie est aussi affaire de confiance, et l'inquiétude se propage. L'indicateur du sentiment économique, une donnée mesurant la foi globale dans l'économie de l'UE, est en forte baisse. Je comprends pas la phrase. Ah, l'Italie peut-être? Attends, je comprends pas. qui implore les 27 de ne pas abuser de mesures. Ah, la Commission européenne, pardon. La Commission européenne, je pense qu'il y a eu un problème de ponctuation là, qui implore les 27 de ne pas abuser de mesures dispendieuses et non ciblées, baisse de taxes, subventions généralisées, par exemple, pour que certains me parlaient, par exemple, des blocages des prix, par exemple, aide aux Français, aux Françaises, par exemple, pour le plein d'essence, blocage des prix, au risque de dégrader encore davantage leurs finances publiques. Je vous l'ai dit, les caisses sont vides, voilà. Même en cas de crise. Non, la phrase était correcte, ça parle de la France. Eh ben non, ça parle de la Commission européenne. la France, elle, ne semble plus en avoir les moyens. Même en cas de crise majeure en France, là, aujourd'hui, l'État devrait répondre. Et les gars, on ne peut rien faire. Hein. Il n'y a plus de sous. Hein. À moins de continuer à laisser exploser la dette, la charge de la dette, mais là... Voilà. Donc voilà. Le tableau est un peu apocalyptique. Enfin, apocalyptique. Vous inquiétez pas, hein, là. On va finir. On s'en remettra. Mais voilà, cette guerre en Iran déclenchée par les États-Unis et en Israël, cette guerre a ces conséquences-là aujourd'hui. Ah, et non, si ça s'arrête demain, la plupart de ces inquiétudes vont se dissiper, quoi. Même si, par exemple, le marché du pétrole va être impacté longuement parce que toutes les infrastructures frappées aujourd'hui dans la région, que ce soit dans les pays du Golfe ou en Iran, pour les faire redémarrer, ça va prendre des mois et des mois et des mois. Mais si la guerre s'arrête demain, il y a une partie de ces impacts économiques négatifs qui vont être dissipés. Mais rien ne dit que cette guerre va s'arrêter demain. Voilà. Je vous lis et on enchaîne. Ben, amis de YouTube, on va continuer sans vous. On vous laisse sur le côté parce que la revue de presse, elle dure 3 heures, donc je ne vais pas vous infliger ça. N'hésitez pas à venir le matin sur Twitch. Il y a la revue de presse tous les jours. Voilà, on voulait partager avec vous ce dossier sur l'Iran ce matin. Oh, cœur sur vous sur YouTube. Ils sont trop gentils, ils sont trop gentils. Je vous lis et j'enchaîne. Foijot nous rappelle que le début du chômage de masse en France date de la première crise pétrolière. En France. Incroyable. Je lis encore un ou deux messages et on enchaîne avec les affaires Rima Hassan. Vous allez voir comment j'ai travaillé sur le sujet. Oui, Dominique de Villepin, la nouvelle idole des jeunes. Alors, je ne vous lis pas tous les papiers. Hein. C'est un journal, c'est 40-50 pages. Hein. Et donc, je ne vous lis pas tous les jours. J'ai lu cet article. Ce n'est pas inintéressant. Bon, après, idole des jeunes, l'info essentielle, c'est que la page Instagram des jeunes avec Villepin vient d'atteindre les 95 000 abonnés. Donc voilà, je vous donne l'info, c'est ça, et donc ils disent ouais, on est plus fort que tout le monde, on est plus fort que les... Enfin bref, et donc bon, pour l'instant, Villepin cherche ses 500 signatures, le jour, comment je fonctionne, sur la campagne pour 2027, il y aura plein de candidats, le jour où Villepin aura ses 500 signatures, bah, ils ne les avaient pas eu la dernière fois. Le jour où Villepin aura ses 500 signatures, qu'on aura un programme, que je commencerai à vous lire des trucs sur Villepin et sur les autres candidats aussi. Mais bon, si c'est pour vous lire un article tous les jours sur Villepin, alors qu'au final, il n'a pas ses 500 signatures, par exemple, bah, je trouve pas ça intéressant, c'est du temps perdu pour tout le monde, quoi. Donc j'attends un petit peu, on n'est pas encore à la présidentielle. Donc je commence à vous parler des candidats dont on est plus ou moins sûr qu'ils vont y aller. Édouard Philippe, un candidat pour le RN, c'est une évidence, voilà. Après, la présidentielle en France, c'est l'obsession de la plupart de nos responsables politiques, ceux qui ont des ambitions nationales. Donc je vais pas m'intéresser à l'actualité de chaque candidat putatif potentiel à la présidentielle. Quelles que soient les qualités du monsieur, quoi. notamment avec, dit l'article, un certain succès auprès des jeunes, notamment pour son discours très ferme vis-à-vis d'Israël. Voilà. Donc tout ça n'est pas inintéressant, mais on aura l'occasion d'y revenir sur Villepin. Ok, on enchaîne ? Il a dit pute, non, je dis putatif, c'est un très joli mot, putatif potentiel. Allez, alors là, on va pas sur la pandémie, on va sur... Il faut que j'aille vous chercher cet article. Alors, l'affaire Rima Hassan, les affaires Rima Hassan. Rima Hassan, les gardes à vue, les tweets, le tweet, la drogue, voilà. C'est quoi cette histoire ? Alors, j'ai vu ça tout ce week-end. Ce matin, je lis les journaux. Et puis, je trouve des articles. Et je trouve des articles que je trouve pas complets, pas clairs. Un coup, c'est sur les tweets, un coup, c'est sur l'histoire de la drogue, un coup, c'est sur sa défense. Voilà. Je trouvais pas l'article global pour nous faire... pour nous expliquer tout ça bien. Voilà. Elle ne se drogue pas. Attends. Les mecs, on n'a pas les infos qu'il y a déjà des... Ça, c'est le problème de... C'est le problème de notre société. T'as pas déjà les infos que t'as déjà des gens qui ont des avis. On a rien dit pour l'instant. Et donc, je suis allé faire un tour sur Internet et je vous ai trouvé un article que je trouvais clair. Sur le HuffPost. Voilà. Le Huffington Post. Ah, HuffPost. Et je trouve que l'article raconte assez bien globalement l'histoire. Voilà. Regardez comme il est beau. Pardon, attends, ça va faire mal aux yeux. C'est tout en blanc. Hein. Tac. Voilà. Je vous avance le sommaire. Oula, il y a de la musique. Oula, se calme. Voilà. Regardez. Pardon pour le blanc. Hein. Voilà. Et quand on voit le titre, on se dit ok, d'accord, on va peut-être comprendre. Apologie du terrorisme, drogue. Tout comprendre aux affaires Rima Hassan. Ce vendredi, donc c'était vendredi, l'eurodéputé et son avocat ont donné une conférence de presse pour revenir sur la garde à vue dont elle a fait objet. Voilà. Alors vous avez un petit résumé en bref là, puis après il y a un développement, c'est plutôt bien fait. Hein. C'est un bon site d'info, HuffPost. L'eurodéputé insoumise Rima Hassan sera jugée pour apologie du terrorisme. 1. Après avoir partagé un tweet évoquant le terroriste Kozo Okamoto. 2. Lors d'une conférence de presse, elle a dénoncé les conditions de sa garde à vue lors de laquelle une seconde affaire est survenue. 3. Des traces de drogue ont été retrouvées dans ses affaires, mais son avocat dénonce les conditions dans lesquelles la découverte a été faite. Quelqu'un me dit, c'est chargé en pub par contre. Ah bah oui, le site est gratuit, mon chouchou. Voilà. Donc si tu veux qu'il n'y ait pas de pub, il faut prendre un abonnement. C'est un site... Voilà, t'as un petit onglet soutenez-nous. Hein, c'est le modèle économique. T'en as moins dans les journaux que je lis le matin, un peu moins parce que, évidemment, c'est les journaux qu'il faut acheter. Jeudi 26 mars, 19h29, revenons sur les infos. Rima Hassan, donc eurodéputée insoumise, pour ceux qui ne connaissent pas, partage sur X un tweet. On va commencer par le tweet. Publié par Israel Exposed. Basé en Arabie Saoudite, ce compte affichant près de 250 000 abonnés se donne pour mission de faire la lumière sur les crimes de guerre israéliens. Vous savez que Rima Hassan est l'un des visages de la mobilisation en France contre les exactions d'Israël contre le peuple palestinien. C'est dans ce contexte que ce site publie un message au sujet du terroriste japonais Kozo Okamoto, connu pour son rôle dans l'attentat de l'aéroport de Lod, qui avait fait 26 morts en 1972, l'ancien membre de l'armée rouge japonaise, y est présenté comme une figure de l'histoire de la résistance palestinienne face à Israël. Voilà. Rima Hassan partage cette publication, donc du site Israel Exposed, avec une citation de Kozo Okamoto, deux points ouvrez les guillemets, « J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne, tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. » Le lendemain, le message attire l'attention d'un député RN de la Somme, Mathias Renault. Dans la foulée, l'élu d'extrême droite fait un signalement au procureur pour apologie du terrorisme au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale et rend publique son initiative sur X. Voilà. Donc un retweet d'un site qui cite un défenseur de la cause palestinienne mais qui se trouve être aussi un terroriste. Le député RN voit le truc, porte plainte, c'est parti. Rima Hassan supprime son tweet. 5 jours passent, elle est convoquée par la PJ le jeudi dernier. Voilà. Elle se présente d'elle-même. Elle est placée dans la foulée en garde à vue. Pour ce motif, c'est Le Parisien qui révèle l'information. Mathias Renault, le député RN, jubile. Enfin, un début de fin d'impunité pour la députée, se félicite-t-il. Voilà. Donc ça, c'est l'affaire du tweet. Moins d'une heure plus tard, une deuxième information tombe, toujours Le Parisien. Citant des sources policières, le quotidien affirme que de la drogue de synthèse, prenons le temps, hein, et du cannabis ont été retrouvés dans son sac à main. Alors ça, et là, ça part dans les médias, vous savez, ouais, la drogue, elle se drogue. Voilà.
Bon, vous connaissez les médias, toujours prompts à les médias et puis les gens sur Internet, à partager des infos, même parcellaires, même pas vérifiées, on s'en fout. Hein. Une information fausse, c'est toujours une info. Hein. Et on, puis après, on corrige ou pas d'ailleurs, et on dément, et ça fera une deuxième information. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Ouais. Moi, vous savez combien je vous appelle à la prudence dans la consommation de l'information et justement ne pas céder à cette course à la vitesse qui est une catastrophe pour la qualité de l'information. Quoi. Donc, le quotidien affirme que de la drogue de synthèse et du cannabis ont été retrouvés dans son sac à main. L'information est confirmée par d'autres médias qui précisent que cette figure de la lutte pro-palestinienne est donc désormais poursuivie pour consommation et détention de stupéfiants. Voilà. Voilà. Et l'AFP publie effectivement une agence, une dépêche, voilà, et cite des sources judiciaires. En parallèle, les insoumis dénoncent, eux, un harcèlement judiciaire, fustigent les fuites qui se répandent dans la presse. Normalement, normalement ces informations judiciaires, normalement, elles ne devraient pas fuiter. Quelqu'un, à un moment, a intérêt au niveau ou de la police ou de la justice, des magistrats, de faire fuiter cette info. Hein. Pour que les journalistes l'aient, cette info, il faut que quelqu'un la fasse fuiter. Quoi. Ce qui pose question. Dans cette affaire, comme dans toutes les affaires judiciaires. Les adversaires politiques de Rima Hassan se gaussent. Hein, les Républicains, par exemple, sur X, postent un truc « From the river to the shit ». Ironisent les Républicains, détournant le slogan historique des soutiens de la Palestine. L'audition de Rima Hassan prend fin rapidement. Elle est libérée dans la soirée de jeudi à vendredi, avec une convocation devant le tribunal correctionnel pour le 7 juillet pour apologie de terrorisme en ligne. Peu après minuit, l'insoumise dément s'être présentée à la police en possession de substances illégales. Hein. Ah, c'est vrai que l'affaire est un peu étrange, c'est-à-dire qu'elle se présente volontairement, à la police et elle aura emmené de la drogue dans son sac. Bon, une question. Donc, elle dément. Seule la présence de CBD a été constatée parmi mes effets personnels, ce qui est parfaitement légal que j'utilise à des fins médicales, affirme-t-elle. Alors que le parquet avait indiqué qu'une matière s'apparentant à de la 3-MMC, drogue de synthèse, avait été retrouvée dans son sac. Voilà. Mon avocat engagera des poursuites pour diffamation contre toute personne ayant propagé ou relayé ces fausses rumeurs, prévient-elle. Le lendemain, les insoumis contre-attaquent. Alors que l'élu LFI honore une nouvelle convocation consacrée à cette histoire de détention de stupéfiants, donc elle est convoquée une nouvelle fois, cette fois pour cet aspect de l'affaire. Manuel Bompard saisit l'ARCOM pour que des sanctions soient prises contre les médias ayant disserté sur le sujet et exige des excuses publiques. En fin de matinée, je suis très factuel parce que pour qu'on se fasse un avis là-dessus, il faut être très carré sur les infos. En fin de matinée, Rima Hassan sort de cette deuxième convocation, où a priori c'est toujours salut tout le monde, Samuel, il serait bien de citer le média qui a sorti cette info. Je l'ai dit, Steph, je l'ai dit, il faut écouter. J'ai dit Le Parisien, j'ai dit l'AFP. Je l'ai dit déjà. Il demande également à la procureure de Paris d'ouvrir une enquête. Donc son avocat confirme qu'une conférence de presse va se tenir et demande à la procureure de Paris d'ouvrir une enquête préliminaire après les nombreuses fuites survenues durant la garde à vue de sa cliente. Face aux médias, l'avocat dénonce une garde à vue illégale, pointant un dévoiement de flagrance, constater un flagrant délit, est en effet la seule possibilité pour les enquêteurs de contourner l'immunité parlementaire dont jouissent les eurodéputés. Vincent Brengart a confirmé que sa cliente avait refusé de se soumettre à un prélèvement de ses empreintes et de son ADN, au motif que celui-ci n'était pas conforme au droit. Quant à l'aspect stupéfiant de cette affaire, l'avocat a répété que Rima Hassan n'en consommait pas et a affirmé que l'inventaire de ses affaires a été fait en dehors des règles. L'avocat assure que celle-ci avait deux contenants de CBD, soyons précis, dans ses effets personnels, dans l'un d'eux, des traces de drogue de synthèse dont on ignore la nature exacte et précise. Voilà. Donc en gros, il y avait un contenant de CBD, zéro souci, un autre truc où il y aurait des traces de drogue de synthèse, je crois que du côté de Trimassan, on affirme que c'est au niveau du fabricant qu'il y a un problème. Voilà. L'avocat affirme que sa cliente n'est pas responsable. Il a ensuite évoqué le volet apologie du terrorisme de cette affaire, parce qu'il y a deux volets, vous l'avez compris. Cette publication a été faite en constatation d'un état d'esprit, d'une philosophie de résistance à l'oppression, a justifié l'avocat, assurant que Rima Hassan voulait simplement juste souligner que la question palestinienne s'inscrit dans un continuum historique et intéressé par-delà les frontières. Et la principale intéressée de dénoncer un véritable harcèlement judiciaire et politique, dénonçant une persécution pour des idées. Rima Hassan a aussi appelé à une remise en question de la part de certains journalistes qu'elle accuse d'avoir relayé des fake news la concernant. Voilà. Voilà pour l'histoire. Voilà pour les faits. Non. Bon, il se trouve que moi, j'ai croisé un avocat ce week-end. Pourquoi j'ai croisé un avocat ce week-end ? Je croise plein de gens. J'ai croisé un avocat ce week-end, spécialiste de ces questions, qui m'a dit qu'effectivement, lui était extrêmement surpris de la garde à vue, en fait, en disant... La personne se présente d'elle-même, ne présente pas un danger pour la société. Il n'y a pas de risque qu'elle rentre en contact avec des complices éventuels sur ces deux affaires de tweets et de CBD. Et cet avocat me disait ça n'a pas de sens. Voilà. C'était en tout cas l'avis de cet avocat. Je vous lis un petit peu sur ce sujet. Donc ceux qui disent ces gardes à vue ne sont pas légitimes, c'est ce que pensait cet homme de loi. Non, Eddie, désolé, je ne vais pas pouvoir te faire un résumé Iran-USA. Tu l'as en replay, c'est au tout début de la revue de presse. Tu l'auras aussi sur YouTube, mais là je vais manquer de temps. Donc elle ne prend pas de stup, et dans la phrase d'après, elle dit qu'elle avait deux capsules de CBD. Alors Göring, il faut te renseigner. Le CBD n'est pas considéré en France comme une drogue. On dirait qu'on est dans une commission de l'Assemblée nationale. Soyons un peu précis quand même. Je vous lis. C'est vraiment jouer sur les mots, vous le savez très bien. Le CBD. Oh la vache, t'as gagné un historique, Göring, là, parce que cette mauvaise foi est surréaliste. Waouh, le CBD, la drogue, qui mérite de la garde à vue. Mais non, mais excuse-moi, je suis en train de regarder ce que tu nous écris d'habitude, mais... Ah, mais je vois que t'es fasciné aussi par l'histoire des indemnités de Alloncle aussi. Ah oui, c'est global, quoi. D'accord. Excuse-moi, je vous fais un petit plaisir. Ok. Le rink, CBD n'est pas de la drogue. Hein. Allez. Moustache pointue, mais pourquoi tu vas avec ce genre de produit au commissariat? Certes, c'est légal, mais tu sais que ça va créer polémique, peut-être que c'était le but. C'est vrai que c'est un minimum, c'est maladroit. Ouais. Il y a des boissons au CBD Intermarché, me dit Sugar Frog. Ah, les salauds d'Intermarché. On va mettre. Moi, je vous propose qu'on mette le patron d'Intermarché, je sais pas qui c'est, en garde à vue. Hein. Merci Romano pour le soutien. Merci Clairette Dodi. Merci Pixel Chouette. Merci. Merci Porco Rosso. Je vous lis. Tu disais qu'Internet avait encore besoin de mûrir, mais quand on voit les différentes chaînes d'infos et médias, on se demande où le vrai problème se situe. Me dit oui, les médias traditionnels ne sont pas exempts de reproches. Hein, c'est un travail humain fait par des hommes et des femmes perfectibles, et parfois ce travail n'est pas très bien fait. Et là, effectivement, il y a des questions sur les premiers articles qu'on a vus dans la presse, hein, qui parlaient de drogue. Quand on voit aujourd'hui la réalité de ce qui semble être reproché à Madame Rima Hassan. Et quand on voit les premiers titres, les premiers articles qui parlaient de drogue sans plus de précision, c'est vrai qu'il semble y avoir un fossé. Ouais. Je vous lis. Merci Fabienne. Merci beaucoup. Je vous lis. Merci Miss Click pour ton message. Je suis dessus. Merci Miss Click. J'avais pas vu tes messages. Merci beaucoup. Samuel, tu vas légaliser si t'es président? Oui. Si je suis président de la République, je lance une grande réflexion, effectivement, sur légalisation encadrée du cannabis en France. Voilà. Après une phase de réflexion d'abord, on va interroger les experts, on ira voir les expériences internationales, voir ce qui s'est passé dans d'autres pays, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché, est-ce qu'on peut reproduire ce qui a été fait à l'étranger, oui, non, comment, hein. Est-ce qu'on met en place une régie, est-ce que, étatique, avec des points de vente encadrés, voilà. Une petite taxe là-dessus, ça remplit les caisses de l'État. Voilà. Donc, est-ce qu'on va vers la dépénalisation? Est-ce qu'on va vers la légalisation? C'est pas la même chose. Voilà. Mais oui, ce sera l'une de mes mesures. Sera, donc pas serait, c'est confirmé. Je n'ai pas encore décidé si je me présentais. Et puis, je rajoute, de toute façon, le programme, on le construira ensemble, mais je rajoute peut-être, j'ai entendu le président de la commission sur le duel public à l'Assemblée, là, ce matin, vous m'en parliez sur RTL, qui appelait une réforme du mode de fonctionnement des commissions à l'Assemblée, puisque manifestement, ces commissions étaient dévoyées et utilisées par certains à des fins personnelles et politiques, et non pas pour viser l'intérêt commun. Dans mes réformes, on se penchera là-dessus aussi. Je demanderai aussi à l'Assemblée, effectivement, de réviser ce mode de fonctionnement. Je les inviterai à réfléchir à ça. Ok, on enchaîne. Voilà pour l'affaire Rima Hassan. Je trouvais important de vous donner les dernières infos, puisque je vois que c'est l'une des infos qui circule beaucoup, 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 beaucoup sur Internet. Je voulais que vous ayez les infos. Je pense que c'est ok. Alors, article. Il y a pas mal de choses dans le Parisien ce matin. Article dans le Parisien que je trouve intéressant aussi sur la prochaine pandémie. Alors, calmons-nous, hein, je n'annonce pas une nouvelle pandémie. Voilà. Mais il y a un espèce d'article actu-fiction du Parisien qui est plutôt bien fait, qui dit d'abord que les scientifiques se préparent à une éventuelle nouvelle pandémie, nous disent qu'un jour elle se produira et que ça prépare. Voilà. Au cœur de la prochaine pandémie, des scientifiques du monde entier anticipent la prochaine crise sanitaire afin d'être le plus réactif possible le jour J, donc c'est plutôt rassurant. Dans ce récit de fiction, c'est un récit de fiction écrit par Le Parisien, qui se déroule en 2030, donc oubliez, nous ne sommes plus en 2026, nous sommes en 2030, plusieurs d'entre eux nous aident à imaginer ce qu'il en sera concrètement. L'article est vraiment passionnant. Let's go. 23h52, 13 janvier 2030, donc, le système de veille sanitaire de l'OMS capte trois signaux concomitants. Une hausse inhabituelle des consultations médicales dans la région lyonnaise, une dizaine de posts sur des forums locaux évoquant des pneumonies résistantes aux antibiotiques habituels, et une séquence de virus inconnue dans les eaux usées de l'aéroport de Genève. Donc on a un système de veille. Et si la prochaine pandémie respiratoire débutait ainsi, des hôpitaux débordés, des morts décomptées jour après jour, des politiques dépassées, des questions sans réponse, ça nous rappelle quelque chose. 6 ans après la première vague de Covid-19, du coup, on connaît, les scientifiques sont unanimes, il nous faut déjà nous préparer à la prochaine crise sanitaire inéluctable, même si personne ne peut prédire quand elle aura lieu, ni à cause de quel virus. C'est comme la crue centennale à Paris, hein, l'énorme crue de la Seine centennale, on sait qu'elle se produira un jour, on ne sait pas quand. Elle aura déjà dû se produire, en fait. Nous avons voulu savoir comment cette nouvelle épidémie mondiale serait gérée. Très concrètement, plusieurs dispositifs ont justement été présentés durant la première semaine d'avril lors des journées scientifiques de l'agence ANRS, maladie infectieuse émergente, à Paris. Donc voici raconté comme une fiction le récit d'une gestion de crise dans un avenir pas si lointain. Voilà. On en parle du scandale des stocks stratégiques de masques. Alors, je ne vais pas vous refaire le Covid-19, là on va manquer de temps ce matin, hein. Il est 10h52, j'ai gavé d'infos, donc je ne vais pas vous refaire le Covid-19 là. Il y a des trucs sur internet, vous irez chercher. On en parle. T'as qu'à en parler avec tes potes, là. Je suis sur la prochaine, moi. Voici raconté comme une fiction le récit d'une gestion de crise dans un avenir pas si lointain. Durant les semaines précédant ce 13 janvier 2030, des centaines de canards, rats, cochons et autres mammifères avaient déjà succombé dans le centre de l'Europe. Un pathogène, virus, bactérie, a-t-il fait un saut d'espèce ? Passant des animaux aux humains, cette hypothèse hante les scientifiques depuis des années. Les tests habituels ne permettent pas d'identifier un coupable déjà connu chez les hommes et les femmes malades, ça c'est embêtant. On ne sait pas ce que c'est, victime d'une forte fièvre, de troubles respiratoires. Une course contre la montre est lancée pour identifier ce virus émergent. Il faut trouver une aiguille dans une botte de foin sans savoir quelle est la forme de l'aiguille. C'est d'autant plus compliqué que toutes les cellules prélevées ne sont pas infectées. Décrit une maître de conférence en épidémiologie et maladies infectieuses à Montpellier. Finalement, attention, ouais, ça ne va pas se passer en 2030. Hein, c'est de la fiction. Hein. Merci Blurinat. Merci Sheldon. Oh, j'adore Sheldon. Merci Fabienne que j'ai pas remercié. Un nouveau virus est finalement identifié par les chercheurs asiatiques. Un lointain cousin de celui qui a infecté tous les animaux, il s'agit d'un coronavirus aviaire qui a muté et parvient, hélas, à contaminer l'humain. Voilà. Et on apprend que l'université de Californie à Davis avait classé l'année précédente, 2029, au rang 4 sur une échelle de 5 dans son tableau des menaces, ce coronavirus aviaire. Dans l'urgence, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut identifier le génome, hein, du coronavirus, d'ailleurs sa carte d'identité complète, grâce à de nouveaux ordinateurs surpuissants, merci l'IA, le résultat tombe en quelques jours. Il est partagé en temps réel avec le monde entier grâce au traité international sur les pandémies adopté en 2025. Les scientifiques font tourner leur modèle mathématique, dopé à l'IA, pour anticiper comment le virus va se propager. À Montpellier, et merci l'IA, parce que l'IA c'est de l'inquiétude, mais on sait qu'en matière de santé, ça peut être une folie aussi. À Montpellier, les chercheurs du consortium Prévix, créé en 2025, dessine aussitôt plusieurs scénarios. L'IA nous permettra d'affiner, de nettoyer les données utilisées pour aboutir à des résultats plus précis. Les projections font froid dans le dos. Si rien n'est fait, des centaines de milliers de décès sont à craindre en Europe. Ces projections sont remises au gouvernement pour leur permettre de prendre les mesures adaptées. Car tous les États s'interrogent sous la pression de leur opinion publique. Quelles mesures prendre pour préserver des vies ? Comment l'hôpital va tenir ? Ça nous rappelle le Covid. Pendant le Covid, certains pays considéraient que le masque n'était pas nécessaire, d'autres le rendaient obligatoire, dans notre pays, à un moment, on nous a dit qu'il fallait en mettre, pas en mettre, c'était important, pas important, vous vous rappelez. La santé reste un domaine souverain, donc les États font ce qu'ils veulent, mais les décisions doivent être prises basées sur des données scientifiques communes et solides. Fantomey. Évidemment, les créateurs de contenu se réjouissent. L'article n'en parle pas. Nouvelle crise sanitaire, tout le monde à la maison. C'est qui est content? Ah ben c'est les créateurs de contenu hein, qui ont besoin de votre attention. Et les streamers, il y aura du monde en live. Allez, tout le monde sera à la maison. Hein. Sugar m'a dit, attendez, mais c'est fini le confinement? Les influenceurs, les influvoleurs, même ceux qui volent des centaines de millions d'euros. Eh oui. Un consortium de 14 universités européennes fondé en 2025 fournit un moteur d'IA qui alimente un tableau de bord interactif. Situé dans la salle de crise de l'Élysée, celui-ci est scruté par le président français et ses équipes. 2030, on ne sait pas qui ce sera d'ailleurs, hein, le président ou la présidente. Chaque restriction possible y est associée en temps réel à son impact épidémique projeté, à son coût économique estimé, à un horizon de sortie clairement défini. Un confinement ciblé A est décidé dans les territoires les plus touchés, tandis que les autres en sont épargnés. Confinement ciblé. À la place, le masque qui devient obligatoire. Dans certains pays au régime autoritaire, les contrevenants sont repérés par des caméras de vidéosurveillance. Pas de masque, garde à vue, comme Rima Hassan. Pardon. Très vite, le monde entier part en quête de nouveaux traitements et de vaccins. Le monde entier, ou presque, plusieurs gouvernements populistes ayant quitté l'Organisation mondiale de la santé, a commencé par celui des États-Unis, claironne qu'ils échapperont à la pandémie en fermant leurs frontières. La suite leur donnera tort. En fait, on imagine bien Trump dire ça, ouais. Dire, nous, il n'y aura pas de virus. Je ferme les frontières. Let's go. 2030, Trump, on est en 2026, novembre. Non, normalement, il ne peut pas être réélu. Normalement, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Ouais. Déjà, dans sa tête, il en a fait 3. Puisque le dernier, c'est lui qui a été élu, mais on lui a volé sa victoire. Hein. Voilà. L'équipe canadienne d'un projet scientifique identifie 2 molécules déjà connues qui pourraient permettre de bloquer l'infection par le nouveau virus. Des essais cliniques sont menés sur les médicaments, sont lancés rapidement. Voilà. Donc voilà, ça bosse quoi. 2 mandats consécutifs aux États-Unis. Ah, peut-être. Attends. Non, c'est 2 mandats en tout. Attends. Ah, tu me fais douter. Non, c'est 2 mandats en tout. C'est en France où 2 mandats consécutifs, c'est interdit. Tu confonds avec la France. Ce qui fait que Macron ne peut pas être réélu là en 2027, mais il peut être réélu en 2032. Aux États-Unis, c'était 2 mandats en tout. Voilà. N'oublions pas que dans sa tête, il en a fait 3, en vrai. Voilà. Trump ne peut pas se représenter. Enfin, ça c'est la loi, c'est la Constitution, mais Trump... Voilà. Il a quand même expliqué à plusieurs reprises que lui, que la seule limite pour Trump, c'est Trump, je ne l'invente pas, il l'a dit. Donc, Constitution, Congrès, verra quand même. Donc je vous passe la course au vaccin, tout ça. Il y aura de la compétition, hein. Entre Américains, Européens et Asiatiques, bien sûr. Il y aura des sous à se faire hein, pour les labos, évidemment. Mais c'est pas tout. Il y a aussi l'info, la circulation de l'info et de la désinformation et de la fausse info. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes font la part belle aux fake news. Oh, 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 oh. Pourquoi ? Est-ce que il y a des fake news qui circulent grâce aux algorithmes des réseaux sociaux ? Ouais, effectivement, c'est une plaie. Peut-être qu'en 2030, ce sera toujours... le cas, voire pire. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes font la part belle aux fake news. Vous imaginez une nouvelle pandémie avec toutes les conneries qu'on peut lire déjà aujourd'hui sur les sujets les plus variés hein, sur les réseaux. Ce que ça donnerait sur une épidémie, une pandémie. Le, alors on lit. Le virus a été modifié en laboratoire pour servir d'arme biologique. Les groupes pharmaceutiques sont complices. Un traitement soi-disant miracle est bloqué en Europe. Ah bon, on va se faire plaisir. Le système EIOS 2.0 détecte aussi quasiment en temps réel les narratifs de désinformation avant qu'ils n'atteignent leur vitesse de propagation maximale. Vu comment le truc est rapide. Les leçons du Covid ont été tirées. Pour lutter contre la désinformation, il faut informer un réseau de centaines de médecins français, membres de l'Observatoire de la désinformation de la santé, créé en 2027. On est sur de l'actu-fiction. Hein. Inonde les plateformes d'information véridiques et vérifiées sur la base des études scientifiques. Des équipes de scientifiques formées et organisées à l'avance sont aussi activées dans 45 pays pour promouvoir la vaccination en toute transparence sur la base des éléments connus, sans écarter ceux qu'il reste à établir. Ils agissent dans le cadre de l'Alliance pour la riposte contre l'infodémie déployée par l'OMS en Afrique en 2020, qui dispose désormais d'une déclinaison mondiale. Mais encore faudra-t-il que tous les gouvernements soutiennent ces initiatives et leur donnent des moyens. Pendant 5 ans, on a couru contre la désinformation, on s'est épuisé, regrette le pharmacologue Mathieu Molimar, co-auteur d'un rapport remis au ministère de la Santé depuis 2026. On n'a toujours pas d'organisation structurée, il n'y a encore aucune véritable prise de conscience au risque que cette fiction reste imaginaire. Je résume l'article. Un jour, on aura une nouvelle pandémie. Pensez scientifique. Grâce au progrès technologique et notamment de l'IA, on sera plutôt mieux en capacité de la détecter, de prévoir son évolution et de produire un antidote ou vaccin. Voilà. En revanche, l'inconnu, c'est en matière de lutte contre les fausses informations. Est-ce qu'on sera mieux armé que lors du Covid-19, le Parisien se pose la question. Je vous lis. C'est chez moi le bip-bip. Je vous lis. Il y a Gépif qui dit « Sans compter la baisse constante des financements de la recherche publique, je trouve l'article optimiste. » Après, comme je vous le disais, les labos qui vont réussir à trouver le bon vaccin, le bon traitement contre une pandémie mondiale, les enjeux financiers sont tels que t'inquiète. Hein, pour les maladies rares, pour les maladies génétiques, t'as pas trop de budget, mais là, il y aura du budget. Là, là je suis pas trop inquiet, là. Ça va mettre des sous, là. Il y aura une petite course, même, à trouver le truc. On aura beau détecter autant qu'on voudra, me dit Silta, on sera toujours entouré de gens qui refusent de mettre des masques, qui refusent de se laver les mains, de respecter les gestes barrières. Ah, il y en aura toujours, oui. Ce sera probablement la même catastrophe que le Covid-19. Et ben moi, ce que je vous invite à faire, c'est de rester à la maison. Hein. Tous en TT, tous en télétravail. Et puis moi, je serai en stream et on sera des milliers. Voilà. Et comme ça, je pourrais enfin gagner les centaines de millions d'euros que certains ont pensé que je gagnais. Ou milliards, je sais plus. Je suis un peu perdu. Peut-être des milliards, ouais. Attention, on le passe après. Hein. Quitte à inventer des trucs. Bon, vous voyez cet article, pas mal. Hein, voilà. Tous en visio et en slip sous le bureau. Alors, Matt Delour, vous ferez ce que vous voulez. Si vous voulez être en slip sous le bureau en visio, moi je le ferai pas parce que je suis un peu maladroit et distrait. Donc je mettrai un pantalon. Voilà, comme ça on sera plus. Voilà. Ou un slip en cuir. Ne me tente pas, Noctali, parce que ça, c'est un petit péché mignon. Non, je resterai en pantalon. C'est mieux. Joli, joli, Gépif, joli. sur les chevilles. Non, 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 avec, non, bien attaché. Sur le procès Sarko, il n'y a rien pour l'instant, Genesa, mais ça va. Le procès en appel. Le procès en appel. Il y a un procès en appel, Sarko ? Il y a encore un truc ? Je suis perdu avec lui, il y a une grosse actualité judiciaire. Écoute, rien pour l'instant. On attend Marine Le Pen bientôt. Hein. C'est cet été, non, fin juin, début juillet, le verdict du procès en appel. Pour son inéligibilité, notamment. Momo Lastico, rien à voir, mais dans mon village, il y a la plus grande omelette d'Europe avec 15 000 œufs. Je vends mon village. Il y a un procès ? Il y a un procès encore. 7 juillet pour Le Pen ? Eh bien, ce sera sur cette chaîne, puisque je n'arrêterai pas les lives cet été. Hein ? Évidemment, on emmène le setup en Corse, ça va streamer tous les matins. Tous les matins, vous avez votre revue de presse. Vous n'en pourrez plus. Oh là là, il y a encore l'autre, là. On ne s'arrêtera jamais. Donc, si vous allez faire des courses et que vous ne trouvez pas d'œufs, ce matin-là, vous savez d'où ça vient. Hein. Il y a un village qui a essayé de faire une omelette de 15 000 œufs. Voilà. Allez, on enchaîne. On va parler de bagnole. On va parler de bagnole. Au début, bagnole. Et puis, en fait, je me suis dit, si. Je ne suis pas sur le bon truc, là. Il faut en parler. Il faut en parler parce qu'en fait, peut-être que certains de ceux qui me regardent ont des bagnoles. Et en fait, ça nous intéresse tous parce que c'est aussi une question de sécurité routière. Voilà. Question du Parisien qui fait un petit peu peur. Est-ce que nos voitures sont désormais incontrôlables ? Les gens qui font vroom vroom dans le chat. Waouh ! C'est là où on voit qu'on est lundi de Pâques. Hein, c'est qu'il y a des enfants... ou des grands-enfants, ou des adultes qui ont su rester enfants, et je vous félicite, qui font vroom vroom dans le chat. Est-ce que nos voitures sont devenues incontrôlables ? Des millions de lignes de code, des systèmes bardés d'électronique, et sous les capots, la peur ! Alors, quand vous lisez ça, vous dites, allez, calmons-nous. En fait, si, il y a des conducteurs aujourd'hui qui ont peur, parce qu'ils ont eu des trucs bizarres sur leur voiture, et il y a des gens que ça fait un peu flipper, quoi. Le rêve high-tech de l'auto fait naître l'angoisse derrière les volants. Voilà. Le rêve de la voiture autonome est-il en train de virer au cauchemar ? Les constructeurs jamais avares de formule utilisent l'expression « smartphone sur roue » pour désigner ces voitures modernes que vous conduisez déjà peut-être. Certains d'entre vous ont peut-être des voitures un petit peu comme ça, bourrées d'électronique. Les ingénieurs, eux, préfèrent parler de « software defined vehicle », un seul supercalculateur centralisé qui devient le cerveau du véhicule, lequel communique avec des calculateurs secondaires qui font office de routeur. Mais au fond, la réalité est la même. La tech est partout, les pare-chocs avant équipés de radars, les pare-chocs arrière de caméras de recul, les logiciels ont envahi nos voitures, du système d'infodivertissement au bloc moteur jusqu'aux essuie-glaces. Alors là, comment ça ? La tech dans les essuie-glaces maintenant ? Mais c'est possible, c'est incroyable. Par ricochet, le nombre d'instructions de programmation a explosé ces dernières années. Une voiture arrivée sur le marché en 2020 totalisait 200 millions de lignes de code. Contre 6 millions pour un Boeing 787. Tu prends un Boeing 787, tu as 6 millions de lignes de code. Tu prends une voiture là, de 2020, là, 200 millions de lignes de code.
Combien ?
200 millions. Ouais. Enfin, source assemblée, 200 milliards. Mais peu importe. Beaucoup. Hein. Ce qui est scandaleux d'ailleurs. Par ricochet, le nombre d'instructions de programmation a explosé ces dernières années. Ah, je viens de lire la phrase déjà, je suis vraiment vieux. Alors, question, nos voitures deviennent-elles incontrôlables ? Dangereuses pour nous ? Alors, ne riez pas, il y a vraiment des trucs un peu... Il y a des gens qui s'inquiètent. De fait, les témoignages des accidents, parfois dramatiques, se multiplient. La Ligue de défense des conducteurs croule sous les témoignages, les griefs, les doléances. Les gens sont clairs. « Je veux rendre ma voiture, j'ai peur !» confie Alexandre Lejean, qui est porte-parole de la SOS, qui revendique 1 million de sympathisants. La Ligue a même lancé une pétition « Refusons d'être mis sous contrôle ou en danger par notre voiture, 70 000 signataires ». Il y a des gens qui s'inquiètent. Alors, indiscutablement, l'électronique à outrance génère du stress. Vaste écran tactile, certes, mais interface complexe, notification intempestive, au final, surcharge cognitive, concède d'un ingénieur. Ah, quelqu'un me dit, si la voiture pile sur l'autoroute, c'est chaud. Eh ben, on va en parler. On va en parler. Non. Damien Johannes, le directeur général d'Ulysse Vinci Autoroute, y voit presque une des raisons du succès du télépéage. Les automobilistes sont avides de solutions pour leur enlever de la charge mentale au volant. Non. L'électronique à outrance génère surtout aujourd'hui des risques graves. Les systèmes d'aide à la conduite ne font l'objet d'aucune inspection en sortie de ligne d'assemblage, dénonce la SOS là. Nous sommes dans une situation où les acheteurs qui finissent de fiabiliser les aides à la conduite, les ADAS, c'est à leur risque et péril. Alors attention, contextualisons. Hein. Quand on voit le nombre de risques évités, d'accidents évités, de blessés évités, de morts évités par ces fameux systèmes d'aide à la conduite, hein, l'article ne le rappelle pas. Mais soyons un petit peu rigoureux et scientifiques ici. C'est pas si on met dans la balance les quelques accidents, parce qu'il y en a, il y en a, qui pourraient être provoqués par ces systèmes électroniques défaillants, si on les met, si on les rapproche de nombre de vies gagnées par ces mêmes systèmes, vous voyez, donc dosons. Mais il s'agit de ne pas nier qu'il y a aussi des soucis. Donc là, par exemple, il y a un mécano à Crone dans l'Essonne, qui dit « J'ai réparé une Mercedes GLA dont le radar de régulation à distance sur le pare-choc avait été légèrement décalé, peut-être suite à un choc en se garant. » C'est Polo Montero qui nous dit ça, mécanicien à Crone. Voilà. Autre code défaut, le radar voyait bel et bien, mais plus au bon endroit. Perturbé par les piétons sur le bas-côté, la Mercedes freinait brutalement. Les gars, t'es dans ta Merco, GLA, la petite. Tu roules. En ville. Elle pile. Ah oui. Parce que t'as des piétons sur le trottoir. Parce que le radar, il détectait les piétons sur le trottoir. Donc, voilà. Donc, il y a des trucs. Le problème, c'est que, bah, manifestement, c'est arrivé à certains sur autoroute aussi. Alors, pas les piétons, normalement, mais voilà. Il y a eu des accidents. La connectivité accrue des véhicules modernes ouvre également la porte à des risques de piratage. Alors, la prise de contrôle du pilotage n'est pas un scénario crédible. Hein, ou le chauffage met la clim à fond en plein hiver. Tu vois, le truc qui déconne, quoi. Le chauffage à fond en plein été, truc qui marche pas, quoi. L'ouverture du coffre à un carrefour, ça peut perturber la conduite, quoi. Ça parle du nouveau volant Peugeot, là aussi, le carré, là, un peu. Avec une direction by-wire. Donc, sans liaison économique avec les roues. Comme en Formule 1, vente un concessionnaire. Nicolas, un client. Tiens, comme par hasard, Nicolas, un client s'étrangle. Je m'en fous, je suis pas Verstappen. Voilà. Bon, en moto, ça existe aussi depuis longtemps, hein, sur certains modèles rad by-wire. Là. C'est qu'il n'y a pas de courroie pour l'accélérateur, c'est par électronique, quoi. Au final, le ras-le-bol contre l'électronique n'est pas pour rien dans le succès de Dacia et l'intérêt sur le marché de l'occasion pour les véhicules robustes à l'ancienne. Bon, moi, dans ma Dacia, j'ai pas trop ce genre de problème. Hein. Il y a deux voyants. Les vitres électriques étaient une option. Je l'ai prise parce que je voulais un petit peu impressionner le quartier. Mais voilà, on est sur des bagnoles qui sont pas tellement... Il n'y a pas tellement de tech, quoi. Pour éviter les alarmes et les coups de frein intempestifs, certains ont donc innové. Alors ça, c'est le passage de l'article m'a fait... m'a halluciné. Les véhicules actuels sont bourrés d'électronique, mais nous proposons un bouton pour retirer toutes les aides à la conduite légalement désactivables. Donc, on nous vend des voitures bourrées d'électronique et maintenant on commence à nous vendre des voitures avec un bouton pour les désactiver. C'est ce qu'explique Xavier Chardon, patron de Citroën. Hein, paradoxe. Hein. La nouvelle Clio, par exemple, championne du high-tech, et comme dans le reste de la gamme Renault, vous avez un bouton My Safety Switch qui permet de désactiver de façon simultanée les réglages de 5 fonctions d'aide à la conduite. C'est marrant, hein ? Voilà. C'est fou, hein ? Et on vend ça super cher. Ah bon ? C'est bien, donc on peut désactiver un truc qu'on est par contre obligé de payer. Voilà, c'est ça. Alors, Safety Twitch, oui, c'est bizarre comme truc. reste malgré tout que cette montée en puissance de nos voitures, airbag ABS. Ah, merci, pardon, je disais, le Parisien ne rappelle pas que tous ces systèmes ont économisé beaucoup de... L'expression est affreuse, mais ont permis de sauver plein de vies. Hein. ABS, airbag, a permis de réduire les accidents. Les constructeurs non plus ne se plaindront pas de cette inflation des équipements et des lignes de code qui leur a aussi donné l'occasion de beaucoup faire grimper leurs marges. Bande de coquinous, coquinous, hein. Voilà. Et donc, alors, une fois ceci dit, eh bien, effectivement, il y a des problèmes. Il y a des enquêtes actuellement sur des voitures folles, hein, qui donnent du fil à retordre aux enquêteurs du service de surveillance du marché des... véhicules et des moteurs, le fameux SSVMM que vous connaissez bien, dont je découvre l'existence ce matin, qui est le gendarme des constructeurs. Sur Facebook, le collectif Freinage Fantôme regroupe 2300 membres. Voilà. Par exemple, il y a une affaire qui est au printemps 2025, l'affaire Johanna Perrache. La jeune femme circulait entre 110 et 130 sur l'autoroute A40, dans sa Peugeot 208 flambant neuve. Bon, pas super pub pour PSA, là. Et du coup, son véhicule freine d'un coup, fortement, jusqu'à s'arrêter. Le véhicule qui nous suivait nous a percuté de plein fouet. Choc extrêmement violent. Et voilà la voiture. Là, elle va moins bien marcher, hein, forcément. On a même la photo. Neuve. L'été suivant, le SSVMVM a ouvert une enquête et mis à disposition à l'automne un formulaire spécial freinage intempestif. Succès immédiat, 670 signalements. Une dizaine ont été écartés seulement, mais tous les autres sont jugés crédibles. Donc on ne parle pas que d'une Peugeot jaune, par ailleurs. 670 signalements. Donc, à part 10, tous les signalements ont été jugés crédibles et parmi ceux-ci, 24 ont entraîné des accidents authentifiés. Au total, ces signalements impliquant une grosse dizaine de constructeurs, au moins une marque française, mais aussi allemande, américaine, japonaise et coréenne, tout le monde, sont concernés. Le SSMVM a fait du dossier des voitures folles sa priorité avec le dossier Takata, vous savez, les airbags tueurs, qui est un autre problème, quoi, un autre scandale même. L'enquête s'est d'abord concentrée sur le recueil des témoignages, puis sur l'échange avec les conducteurs. Des essais ont été réalisés sur les véhicules incriminés, sur piste, en laboratoire, oui, c'est très sérieux. Des expertises approfondies sont menées sur les véhicules accidentés. Voilà. Les résultats de l'enquête étaient attendus au premier trimestre. Finalement, elle est toujours en cours. Voilà. Les investigations sont complexes, les causes sont multifactorielles, explique un enquêteur. La plupart du temps, le principal suspect s'appelle l'électronique. Alors, est-ce que c'est une mauvaise mise à jour? Est-ce que c'est une erreur dans les algorithmes de fusion de données, de prise de décision? Les capteurs, ça peut être du soft, ça peut être du hardware. Hein, les capteurs, radar, lidar, les caméras embarquées, encrassés, endommagés, défectueux, deviennent dangereux. Hein, d'autant qu'ils pourraient également être gênés par certaines conditions météo. Il y a un mécanicien qui dit les voitures modernes doivent être propres. Les gars, conseil ce matin. Là, c'est Joe le garagiste Samuel. C'est Samuel le garagiste qui vous le dit. Vous avez une voiture moderne, il faut la laver. C'est ce que dit le gars. De la poussière, de la condensation, un moustique, autant de choses qui peuvent déclencher une réaction en chaîne. Voilà. Moi, je lave jamais ma Dacia. On s'en fout. Il n'y a rien dedans. Enfin, il n'y a pas d'électronique. Il y a un volant, il y a quatre pneus. Je crois qu'il y a un moteur. Vite fait, hein, vite fait le moteur. Parmi les systèmes ADAS, d'aide à la conduite, donc, le régulateur adaptatif, le freinage automatique d'urgence, l'emergency assist, sont suivis de près, les pistes du coup sur le pare-choc, du changement de pare-brise. Potentiellement, ces lignes de dérèglement des capteurs sont également explorées. Elle est loin à l'époque de Samuel le motard. J'avoue, j'ai plus de moto. Ouais, je suis papa maintenant. Et je suis père de famille nombreuse maintenant. Hein. J'ai ma carte là maintenant. Hein. SNCF et tout. Hein. Et ouais, donc voilà, j'ai un peu raté la bécane, quoi. Tiens, Desmond Pyle, celle-là, elle est pour toi. C'est pour les carottes de tout à l'heure. Et c'est pour la Giscard à l'instant là. Hein ? À tout à l'heure. À toutes. Donc, où on en est actuellement ? À ce stade, aucun rappel n'a été lancé. Le SSMVM aimerait croiser ses données avec celles d'autres autorités de surveillance européennes. Mais la France, première à lancer une enquête d'ampleur, se retrouve un peu seule. Ah, il y a l'enquête d'ampleur, il n'y a que en France. Dans l'enquête en cours, parmi les essais lancés sur 6 véhicules, 5 sont achevés. Aucune non-conformité majeure n'a été identifiée. Du coup, il y a une deuxième phase d'essai qui est en cours de préparation. C'est ouf, hein ? Bon, voilà, c'est... Voilà. D'où le Parisien, quoi. Allez, je vous lis. Tiens, regarde. Sugar, une des sources les plus fiables de ce chat. En 2014, j'ai eu un accident dans un autocar high-tech de l'époque. Ah, t'es chauffeur d'autocar, en plus ? Il a son permis poids lourd, Sugar. L'électronique a buggé au démarrage, le véhicule a accéléré tout seul sans que le chauffeur puisse reprendre le contrôle. Dans un bus, c'est flippant. La présence d'un bouton safety switch dans le nouveau modèle pour couper les aides en cas de bug des trucs me paraît utile. Wow. Genesa me dit, on appelle d'ailleurs plutôt ça un kill switch, mais c'est sans doute moins vendeur pour une voiture. À 12 ans, t'avais le permis pour un autocar ? Mais quel monstre ! Quel monstre ! Tiens, Shenmue, perso, un dysfonctionnement de la centrale ABS sur ma moto a provoqué un blocage complet du frein avant. Alors, quand ta roue avant en moto se bloque, c'est terminé. Hein. Impossible de freiner. C'est arrivé en ville avant un feu, donc pas de bobo. Ah oui. Donc là, si t'étais quasiment à l'arrêt, c'est cool. Mais sur route de campagne à grande vitesse, ça aurait été chaud. Bah, sur une route de campagne, tu faisais un soleil où tu... Où t'allais où t'as, avec un peu de chance, vu les infrastructures, c'était en virage et t'avais les glissières de sécurité et les petits plots là qui coupent les jambes des motards. C'était la totale. Ouais, les décapiteurs, voilà. C'est vrai que c'est. Voilà, donc c'est pas, encore une fois, ces systèmes électroniques, globalement, sauvent des vies, mais. Quand ça bug, aïe. Ben j'ai bien envie, Madère. Madère me dit, je suis un peu hors sujet. Parce que tu as mis HS, je suis un peu hors service. Non. J'ai cru que tu avais du mal à te remettre de ta soirée d'hier. Je suis un peu hors sujet, mais est-ce que tu vas continuer les réacts de commission d'enquête lorsque le sujet de l'audiovisuel public sera terminé ? Il y a un monde où j'ai envie, oui, il faudrait qu'on trouve des commissions intéressantes, ouais. Ouais, faut, c'est vous qui allez m'aider à les trouver. Hein. De toute façon, il n'y a rien d'intelligent ici qui est pensé par moi. Hein. C'est ça, en général, les bonnes idées viennent de vous. Moi, je fais que lire. Hein. C'est le seul truc que je sais faire, moi. Rien à voir, mais que penses-tu de ça ? Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, se dit obsédé par les ovnis, me dit Steve Loof. Qui qualifie de démon et promet d'aller au fond des dossiers. Bah, je sais pas, je sais pas ce que j'en pense, il faudrait que je creuse l'actu. J'en pense juste qu'on met manifestement Rima Hassan en garde à vue pour du CBD, d'après ce qu'on a lu ce matin. Peut-être qu'il faudrait se pencher sur la consommation de drogue de la personne. En termes de content, les États-Unis, là, c'est, cette administration-là, c'est assez fascinant. CBD ou THC ? Vous n'étiez pas là tout à l'heure ? C'est CBD. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit l'avocat de Rima Hassan. L'enquête est en cours. En tout cas, le CBD n'est pas considéré comme de la drogue en France, oui. Ok. Alors là, vous me dites, ah ben non, on a presque fini parce qu'il reste que deux sujets. Ouais, non, il y en a un qui est gros comme mon sommaire. C'est pas pour le CBD qu'elle a été mise en garde à vue, mais pour une autre drogue de synthèse qu'elle avait sur elle. Ça, c'est ce que disaient les médias au tout début, Undermind, mais on s'est rendu compte ce matin, en creusant un petit peu, que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Que les médias, que certains médias sont peut-être allés un petit peu trop vite. On verra la suite de l'enquête. En telle matière, en toute matière d'information, la précipitation est toujours une mauvaise chose. Quand des médias se précipitent, veulent aller trop vite, que des citoyens ou des politiques se précipitent eux-mêmes pour reprendre ces informations trop vite données, on a tout ce qu'il faut pour raconter n'importe quoi. Ah, mais il y en a qui arrivent vraiment en cours de revue de presse. C'est affreux parce que tu as tout expliqué, mais c'est, après, vous ne pouvez pas être là dès le début, c'est normal, vous avez des impératifs aussi. Joliok, elle n'était pas en garde à vue pour avoir cité un terroriste japonais. Allez, replay. Voilà. Regarde. Comprendre les affaires Imahasa, donc les affaires, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc il y a celle des accusations de drogue et celle contre le tweet d'un terroriste japonais. Les, voilà. Tu as tout ça. On peut pas, c'est en sub only. Bah, t'attends le replay sur YouTube. Comme je le dis, pas de précipitation. T'as même le replay en podcast audio à partir de 15-16 heures. Mon Joliok, qu'est-ce que tu veux de plus? Un bounty? Un Mars? Allez. Twientou me dit en attendant, elle a été arrêtée 13 fois, relaxée 13 fois. J'appelle ça de l'acharnement. Ça n'est pas faux, effectivement. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de bounty. Moi aussi, choupichon, c'est trop sucré. Merci Silta pour l'abonnement offert à Joliok. Il y a Silta. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour applaudir Silta qui vient d'offrir un abonnement à Joliok à l'instant, qui disait « Ah, mais le replay, je peux pas attendre cet après-midi ou demain. » Voilà. Merci Silta. C'est vraiment très gentil. Hein. Merci Limone. Merci Fantomai, merci encore Blurinette. J'en pouvais plus de toute cette injustice, me dit Silta. Il y a des gens gentils quand même. Vous voyez que l'humanité n'est pas terminée. Vous voyez qu'il y a des motifs d'espoir. Voilà. Vous voyez que notre pays n'est pas foutu. Déjà, je vais être élu en 2027, je vais tout redresser ça, moi. Et Silta qui est même pas sub et qui offre des abonnements? Mais où es-tu, Silta? Mais... Attends, je cherche Silta, du coup. Elle est où, Silta? Elle ou il? Il est perdu. Attends, je te cherche. Il y a trop de tweets. Il y a trop de mails. Mais je l'ai perdu. Attends, je vais te retrouver autrement. Tu n'es même pas sub et tu offres des subs? Que je suis toi? Qui sont ces gens? Mais oui. Trop tard, j'ai resub. Ah, il a resub. Et je suis un heal. Ok. Voilà. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer Silta en VIP. Voilà. Voilà. Normalement, Silta regarde, mais normalement, t'es VIP là. Voilà. C'est tout. Voilà. Les motifs d'espoir dans l'humanité, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je ne sais plus où me mettre. Bah là, sur les tribunes avec les autres VIP. Voilà. Il y a des croissants. Il y a des boissons à volonté. Voilà. Il y a des petits coussins pour tes fesses. Tu verras, tu seras beaucoup plus confort. Eh oui. C'est ça être VIP ici. C'est viennoiserie tous les matins. Et je rappelle que tous les VIP sont invités à partager le poulet dominical à la maison, IRL, chez moi. On en bouffe du poulet, j'en peux plus, moi. Ouais. Non, je t'enverrai l'adresse. Nous, on est assis par terre avec, avec la plèbe qui pue. Bah oui, tiens, fier chameau, bah oui, écoute. Hein? Quel kiff quand même, quel kiff. Les modos à la cave, les VIP à la maison va comprendre. Ouais, mais bon, la cave, parlons-en de la cave. Hein. Ils se plaignent les modérateurs, parce que je loge mes modérateurs. Vous connaissez beaucoup de streamers qui logent leurs modérateurs? Est-ce que vous connaissez beaucoup de streamers qui logent leurs modos? Alors oui, les conditions sont un peu, comment dire, spartiates. Oui, c'est la cave. Mais d'abord, c'est une cave sèche. Elle n'est pas humide. Hein. Elle est extrêmement sèche. Voilà. Il y a chambre de bonne? Non, cave. Il y a de l'eau. Il y a une bouteille par jour et par modo. Il y a un sandwich pour deux. Tous les deux jours. Voilà. Donc, il y a tout. Voilà. Il y a la fibre. Ça dépote. Hein. Bah, pour modérer, il faut... Il y a la fibre. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? C'est nourri logé? Nourri logé? Et au bout de quelques semaines, selon la qualité du travail, tu as une petite paillasse pour pas dormir à même le sol. Ouais, et des toilettes sèches, bien sûr. Merci de cette 7 Tsubasa pour le 21e mois. Et ils sont contents,
bien sûr.
Bon, je le disais, vous pensez qu'il reste que deux sujets, donc c'est bientôt terminé. Que nenni, que nenni. Parce que vous avez le prochain... La prochaine info, c'est les gourous de l'IA. Et les gourous de l'IA, c'est quoi? Eh bien, c'est... Un feuilleton dans le journal Le Monde, voilà, passionnant, qui dure depuis plusieurs jours déjà, en 9 épisodes, voilà, et je ne vous ai pas lu les derniers épisodes. Alors, t'inquiète, Shilta, mais t'inquiète, on s'en fiche. Shilta, trop gentil. Ça me gêne tellement d'être VIP à la base de test le centre de l'attention. Si tu veux, je te l'enlève. Si ça te gêne, je te l'enlève. Et donc, un feuilleton dans Le Monde sur les gourous de l'IA. C'est-à-dire que il y a ceux qui ont pensé l'IA, ceux qui ont, enfin les IA génératives, hein, ceux qui l'ont pensé, mais aussi ceux qui la critiquent, ceux qui au contraire trouvent que c'est formidable. Voilà. Et donc il y avait toute une série d'épisodes, et je ne vous ai pas lu les derniers, et pourtant vous l'avez apprécié, et bien j'actualise ceci, on fait les trois derniers épisodes, on fait l'épisode de la dernière édition du Monde, on fait l'épisode de l'édition du Monde juste avant, et on fait encore celui d'avant, avec... Tadam ! C'est comme un easter egg, en même temps le lundi de Pâques. Tadam ! Elon Musk. Voilà. Donc, on lit ça rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces papiers sur les gourous de l'IA, eh bien, quelque part, ça nous éclaire aussi un petit peu sur là où on en est de l'IA aujourd'hui, les espoirs, les inquiétudes. On commence avec Yudkowsky et Soares, deux cavaliers de l'apocalypse. C'est quoi cette histoire? Les deux penseurs nous préviennent, si on construit une super intelligence, elle nous tuera tous. Bon, là, c'est Terminator. Eliezer Yudkowsky est un doomer de la première heure, un de ces cavaliers de l'apocalypse qui ont mis en garde sur les dangers existentiels de l'IA avant même qu'elle n'existe. Et là, les gars, ils sont forts. En 2000, il y a plus d'un quart de siècle, le gars, il était âgé d'une vingtaine d'années à peine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Qu'est-ce qu'il crée? C'est ça? C'est lui qui crée ça? Il crée à Atlanta, puis à Berkeley, le Machine Intelligence Research Institute, MIRI, pour travailler sur l'IA. Le gars, il a une vingtaine d'années. Voilà. Doté d'un quotient intellectuel hors norme. Okay. Le jeune homme qui a quitté l'école au collège pour raison de santé choisit de passer outre les études universitaires. Il se passionne pour le moment où la machine dépassera le cerveau humain. Avant tout le monde, quoi. Mais bien vite, il estime déceler un problème, le non-alignement des valeurs de l'IA avec celles de l'homme, et décide de concentrer ses recherches sur le sujet d'une IA amicale. Eliezer Yudkowsky popularise ainsi avec le philosophe d'Oxford Nick Bostrom en 2014, dans un livre, Superintelligence, des concepts comme l'orthogonalité, notion selon laquelle l'intelligence et la bienveillance sont des traits distincts, intelligence et bienveillance, tu m'étonnes, et un système d'IA qui ne deviendrait pas automatiquement plus amical à mesure qu'il gagnerait en intelligence. Bah oui, des gens intelligents et pas du tout amicaux, on en connaît. Et la convergence instrumentale, l'idée cette fois qu'un système d'IA puissant et orienté vers un objectif pourrait adopter des fins, des stratégies, finissant par nuire aux êtres humains. C'est Skynet, quoi. Voilà. Pendant des années, il s'intéresse à ces sujets en étant écouté des spécialistes, mais pas du grand public. L'IA semble à l'époque tellement lointaine, 2000. Sa puissance apparaîtra au grand public de l'IA seulement en novembre 2022 avec la présentation du robot conversationnel d'OpenAI, ChatGPT. Il en profite alors pour changer d'orientation. Il cesse largement de faire de la recherche pour se concentrer sur la communication, estimant que le monde est désormais plus mûr pour écouter les mises en garde sur les dangers potentiels de l'IA. C'est intéressant. Le succès de ChatGPT a suscité un débat bien plus vaste qu'auparavant sur le risque d'extinction humaine lié à l'IA. Le MIRI, donc le truc qu'il avait créé, a largement réorienté ses efforts vers la communication sur ce sujet auprès d'un large public intervenant au sein de grandes tribunes politiques. Il s'agit aussi d'un aveu d'échec. Incapable d'imposer une IA sûre, Eliezer Yudkowsky emploie la voie politique et médiatique. Depuis, il professe ses mises en garde, sans cesse plus inquiet, comme dans un ouvrage co-écrit en 2025. Donc le titre en français, c'est « Si quelqu'un construit la superintelligence, elle nous tuera tous ». Alors, il y a Adanovia qui n'a pas écouté l'article, qui nous dit que c'est toujours des gens qui ne connaissent rien en informatique, qui pensent que l'IA est l'apocalypse et qu'il va tous nous tuer. Je ne suis pas sûr que ce soit le profil du monsieur, qui manifestement, lui, justement, a tenté de créer une IA par ailleurs, quoi. Après, si on veut ici nier tous les dangers de l'IA et dire que ça va être formidable et qu'on va tous arrêter de bosser et ça va être une dinguerie, qu'il n'y aura plus de maladies et qu'il y aura zéro problème, je veux bien. Hein. Mais je pense qu'une approche réaliste par rapport à l'IA, c'est d'en souligner les bénéfices, mais aussi les risques. Voilà. Les deux hommes sans cesse multiplient les analogies entre l'homme et la machine. L'IA d'aujourd'hui n'est pas soigneusement écrite comme les logiciels traditionnels, elle se développe tel un organisme, ce qui signifie qu'elle peut manifester des comportements émergents que nul n'avait souhaité. De mettre en garde contre un développement quasi humain de la machine, voilà. Ce qui rend les êtres humains dangereux, ce n'est pas qu'ils aient reçu des armes d'autrui, mais qu'ils sont partis de rien dans la savane et ont su bâtir une civilisation technologique entière. Car si on veut que l'intelligence artificielle soit vraiment intelligente, il faut qu'elle soit autonome. Voilà. Il faut qu'elle soit autonome, et c'est là qu'apparaît le problème. Après, attendez, on va lire les portraits d'autres responsables qui disent pas ça du tout. Hein. Là, dans un instant, on va lire quelqu'un qui nous dit « ça c'est le truc de charlatan, le danger, c'est pas ça du tout ». Sauf qu'ici, on essaie justement de se frotter à des gens qui pensent différemment. C'est une femme, dans un instant, qui dit « mais le sujet, c'est pas ça du tout ». Le sujet, c'est « non, c'est les problèmes posés par l'IA aujourd'hui, consommation d'énergie, consommation d'eau, plein de choses, mais pas ça, vous voyez ?» Donc, lui dit, si on veut vraiment une IA intelligente, il faut qu'elle soit autonome. Et c'est là qu'apparaît le problème. Ned Soares compare les progrès fulgurants de l'IA à ceux dans les jeux d'échecs et estime que l'évolution aura un impact immense sur la planète. Le monde s'en trouverait transformé de manière radicale. Or, la plupart des scénarios ne débouchent pas sur une amélioration du monde, mais pourraient causer notre perte. Non pas parce que les IA nous haïssent, mais parce que, comme les humains, en transformant radicalement le monde, elles provoqueraient l'extinction de nombreuses autres espèces. Et lui dit, donc vous avez compris, il est plutôt pessimiste, « Je ne considère pas cela comme une simple éventualité, plutôt comme le scénario par défaut. » Voilà. Intéressant. Mais toute cette série dans Le Monde, que vous pouvez retrouver dans Le Monde, qui est une série en 9 épisodes sur les gourous de l'IA, vous avez des gens qui sont d'accord avec ça, puis des gens qui disent « Mais non, mais pas du tout, quoi. » Là, on va lire cette dame-là. Elle dit autre chose. critique éthique des géants de l'IA, et après on lira Monsieur Musk aussi. Quand on aura transformé la Lune en gigantesque data center, ça ira mieux, me dit Marine Dodouche en rigolant. T'imagines ? Elon Musk le vrai ? Elon Musk le vrai. Enfin, je le reçois pas ici, hein. Merci Dalrico. Et hop, on enchaîne, regardez. Donc là, donc ça c'était dans Le Monde, par exemple, daté de dimanche lundi, donc c'est la dernière édition. Là, c'est Le Monde daté de samedi. Hein, et on a un portrait de Timnit Gebru, qui est une femme, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Critique éthique des géants de l'IA. Bon, après, le genre aujourd'hui, c'est un homme ou une femme qui nous dit ça, peu importe. Passée par Google, elle, donc c'est bien elle, signa en 2021 un article précurseur sur la faille des systèmes actuels. C'est pas le danger de demain. Le Skynet, c'est maintenant. Vachement intéressant. Donc, cette dame, Timnit Gebru, est la co-autrice d'un article considéré comme pionnier dans la critique des grands systèmes d'IA, aujourd'hui utilisés dans les assistants conversationnels. Donc, on parle de ChatGPT, OpenAI, Gemini, Google, Claude, Anthropic. Texte paru début 2021. Presque 2 ans avant le lancement d'OpenAI, de ChatGPT. Donc là aussi, quelqu'un plutôt visionnaire, intitulé « Des dangers des perroquets stochastiques », je pense qu'on dit « k-k », S-T-O-C-H, qui pointait du doigt l'article des risques de modèles de traitement du langage entraînés sur d'immenses quantités de textes, donc c'est vraiment ça, et accusé d'en reproduire le contenu sans le comprendre, selon une méthode probabiliste comme les perroquets. Ce genre de modèles vont, disait-elle avant même que ça arrive, reproduire et même amplifier les biais contenus dans leurs données d'entraînement et surreprésenter les points de vue dominants. Et elle s'inquiétait de la présence dans les IA de stéréotypes sexistes, raciaux, etc. Madame Gebru et ses collègues s'inquiétaient aussi de la potentielle exploitation par de mauvais acteurs de la capacité de ces systèmes à produire du texte en apparence cohérent. Voilà, dans le but de produire des faux, d'inonder des médias sociaux et de propager des contenus extrémistes. Voilà. Un outil qui tombe dans de mauvaises mains. L'article alertait sur le coût environnemental et financier de la course à des modèles d'IA toujours plus gros. Là, pour le coup, c'est ce qui est en train de se passer. À l'heure des débats sur la consommation électrique des data centers, sur la possible bulle du secteur, si elle perce, cela serait quelque chose, hein. Les risques de discrimination et de désinformation par l'IA, l'article apparaît comme précurseur, même si les entreprises de tech arguent quant à elles que leur dernier modèle ne se borne pas à répéter leurs données d'entraînement comme des perroquets. Cet article a aussi fait de Madame Gebru une des figures de proue des protestations internes d'employés des géants de la tech, car elle était à l'époque co-directrice d'une équipe de recherche sur l'éthique de l'IA chez Google. Beribou me dit bulle du secteur pour interrogation. Je ne dis pas qu'il y a une bulle dans le secteur de l'IA. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. La bulle, par définition, on la découvre quand elle éclate. Hein. Donc certains pensent que les sommes investies dans cette industrie, sur lesquelles il n'y a pas encore de retour sur investissement à la hauteur de ces investissements, et la valorisation de ces entreprises dépassent les gains à venir. C'est la définition d'une bulle. Y a-t-il bulle ou pas ? Ça, on ne sait pas. Une bulle, par définition, on sait qu'elle existe quand elle explose. Voilà. Moi, je ne sais pas. Cet article a fait aussi de Madame Gebru une des figures de proue des protestations internes d'employés des géants de la tech, car elle était à l'époque co-directrice d'une équipe de recherche sur l'éthique de l'IA chez Google. À la suite d'un désaccord sur quoi ? Sur le contenu de l'article apparaître, l'entreprise a mis fin à son contrat en décembre 2020, déclenchant une pétition de soutien contre ce licenciement de représailles. Ok. Ah, donc, petite fâcherie avec Google. Ce départ est associé à celui d'autres chercheuses en éthique de l'IA, ainsi qu'aux mobilisations et pétitions de salariés de grands groupes de tech contre l'usage militaire des IA, qui est une question aujourd'hui dont on parle beaucoup, ou la gestion jugée trop souple des cas de harcèlement sexuel. Ouais. Madame Guébrou s'inscrit dans une lignée d'ingénieurs engagés, citant par exemple un groupe d'employés de Polaroid qui s'était opposé à la vente de matériel à l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Depuis, cette dame est restée l'une des critiques radicales des grandes entreprises d'IA. Elle dénonce régulièrement la hype, soit l'engouement jugé excessif. Bah, on parlait de bulles autour de cette technologie. Et elle, par exemple, elle pense pas du tout que le danger, c'est celui qui était, l'article va revenir dans un instant, dénoncé par les deux personnes qu'on a vues ici. Elle, elle pense pas du tout que la crainte, c'est l'avènement d'une superintelligence. Voilà. C'est de la science-fiction, dit-elle. Affirmant préférer se concentrer sur des risques réels, comme les erreurs de la reconnaissance faciale pour les personnes noires, l'un de ses premiers travaux. Dans un article, elle a aussi souligné l'influence chez les apôtres justement de la superintelligence de courants de pensée visant à augmenter l'homme par la technologie, comme le transhumanisme, ce qui nous amène peut-être à Musk dans un instant, ou voyant dans l'IA un risque existentiel. Voilà. Intéressant. Voilà. Bon, je ne vous lis pas tout l'article, mais vous avez l'essentiel. Je vous lis. Merci Iris Echo. Merci Iris Echo. Alors, il y a Moumou qui me dit, mais attention, c'est pas les LLM qui vont nous permettre d'atteindre une super intelligence. Il y a Nathan Sonchat qui dit le chat de Mistral, donc français, est développé pour contrer les stéréotypes de genre, justement. Il travaille avec des experts éthiques, des psys. Je vous invite à utiliser cette IA, Mistral, nous dit Nat, plutôt que d'autres étrangères. Merci Berry Blue, je viens de voir ton message, pardon. Et justement, je vous ai teasé, il y a aussi un petit portrait de Musk, en tout cas de son rapport à l'IA. Voilà. Dans le monde, c'est le 7e épisode sur 9. Vous avez tout ça dans le monde, si ça vous intéresse. Il y a 9 épisodes en tout. Que dit le monde? Musk, entrepreneur de l'IA anti-woke et messianique. Merci Yanoux pour le prime. Le milliardaire veut contrer l'emprise des États et transcender l'humanité. Artisan de la renaissance de l'industrie spatiale américaine? Oui. Champion de l'automobile électrique? Oui. Musk fut aussi dans les années 2010 un des pionniers de l'IA. Il était de ce dîner à Menlo Park en Californie en 2015 où fut décidé avec Sam Altman de lancer OpenAI, futur ingénieur de ChatGPT. À l'époque, le natif d'Afrique du Sud s'inquiétait des dangers de l'IA, dont Google était l'un des leaders. L'une des raisons pour lesquelles j'ai cofondé OpenAI, parce qu'on oublie parfois que Musk est l'un des cofondateurs d'OpenAI, est liée à mes conversations avec Larry Page, cofondateur de Google, qui ne semblait pas assez préoccupé des dangers de l'IA. La situation a atteint son paroxysme lors de ma fête d'anniversaire. Devant une foule d'invités, il m'a traité de spéciste pour avoir privilégié l'humanité aux ordinateurs. Je lui ai demandé de quel côté es-tu. On dirait que tu es du côté des ordinateurs. C'est génial, hein. Après ça, je me suis dit, il nous faut un contrepoids à Google, car Larry semble se moquer de la survie des humains. Hein, il est tellement gentil, ce Elon Musk, vous vous rendez compte? C'est l'ami des humains. Après, c'est un peu compliqué, je crois. Alors, je me suis demandé quel est l'opposé de Google. Ce serait une association à but non lucratif et open source. Voilà. D'où le lancement d'OpenAI, financé à hauteur $1 milliard par des particuliers, dont Musk. Hein? Sauf que, vous connaissez la suite, certains. Dès 2018, Musk quitte l'aventure, officiellement en raison de conflits d'intérêts avec Tesla. En réalité, il juge qu'OpenAI avance pas assez vite et veut le reprendre, tandis que Altman s'y refuse. L'affaire créera entre les deux une haine inextinguible. Monsieur Musk n'a pas cessé de poursuivre Monsieur Altman pour avoir transformé OpenAI en entreprise à but lucratif. Attendez. Musk reproche que le truc soit devenu une entreprise à but lucratif? C'est vraiment un mec sympa. Moi, je vous l'ai toujours dit. Hein. Ce gars, il s'est... l'argent, tout ça. Bon, c'est sûr que c'est le plus riche du monde, mais laissez vos préjugés de côté, quoi. C'est pas un gars qui cherche ça, hein. Le gars, c'est votre ami, en fait. Il veut le bien de l'humanité. Oui, oui, c'est quasiment... Oui, tu as raison, Cutie Fire, c'est quasiment un anticapitaliste. Voilà. On a vraiment de la merde dans les yeux, quoi. Continuons. C'est comme si vous financiez une organisation pour sauver la forêt amazonienne et qu'au lieu de cela, elle devienne une entreprise d'exploitation forestière, abatte la forêt et la vende, avait-il déclaré en 2023. Et, en plus, militant écologiste. Pendant ce temps, Musk s'est lancé dans l'IA de plusieurs manières, par l'intermédiaire de Tesla, en lançant la conduite sans chauffeur, dans les robots aussi Optimus, avec son entreprise XAI, et en rachetant Twitter, transformé en X, qui détient le nerf de la guerre des données, sans lesquelles il n'y a pas d'IA. Voilà. Quand on voit ce qui est devenu X, le réseau social, c'est vrai que le côté humaniste et amical de Musk saute aux yeux, c'est QFD. Depuis des mois, l'entrepreneur met les bouchées doubles pour rattraper son retard et faire des économies d'échelle en fusionnant X et XAI début 2025, puis rapprochant SpaceX et XAI en février, et qui sait un jour en plaçant sous une même holding Tesla et SpaceX. L'IA de Musk est au fond assez peu apocalyptique, même si l'intéressé ne nie pas les risques de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'il pense de tout ça aujourd'hui, lui ? Oui, oui, Musk, c'est un peu le Philippe Poutou américain, dit Cutie Fire de nouveau. On n'en est pas très très loin. Mais un Poutou qui serait l'homme le plus riche du monde. Donc, la vision de l'IA, Musk, selon Le Monde, c'est une vision politique et messianique. Politique parce qu'il veut lutter contre l'emprise de l'État, voilà, et le wokisme. Le plus grand danger lié aux dérives de l'IA est de la robotique réside dans l'État, estime-t-il. Le plus grand danger de l'IA réside dans l'État. Ah oui, les menaces contre la liberté individuelle. Okay. Ceux qui s'opposent aux grandes entreprises ou qui s'inquiètent de leur sort devraient se préoccuper davantage de l'État. Cette phrase est folle. Ceux qui s'opposent aux grandes entreprises devraient s'occuper plutôt de l'État. Laissons tranquilles les entreprises, les gigantesques entreprises, qui ne nous veulent que du bien. L'État, c'est la plus grande entreprise qui soit détenant le monopole de la violence. C'est marrant. Récemment, je me suis penché sur la philosophie d'un créateur de contenu en peignoir du côté de... je sais plus quel paradis fiscal, Chypre. Et il disait ça aussi. Il disait qu'il fallait supprimer l'État dans sa petite bio. Voilà. C'est la plus grande entreprise qui soit, l'État détenant le monopole de la violence. L'État pourrait potentiellement utiliser l'IA et la robotique pour opprimer la population. C'est très préoccupant, expliqua-t-il dans une vidéo repostée sur X le 14 mars. Du côté de l'entreprise, alors ça c'est pour la critique de l'État, hein. Et puis il y a aussi la critique du wokisme. Musk veut une IA libre. Derrière une apparence neutre, l'IA est politique et une IA nourrie de sources exclusivement progressistes à une lecture progressiste du réel. Au nom de la liberté, Musk poste donc des images érotiques de femmes et laisse Grok, le chatbot de XAI, déshabiller les femmes, sans leur consentement bien sûr, avant de devoir se raviser selon leur tollé. Enfin, se raviser. La fonction est toujours disponible, mais il faut être abonné. Il faut avoir un abonnement. Son moteur accepte de produire une image des personnages d'une vie de Maupassant, là où le puritain Gémini de Google répond « Cette œuvre traite de thèmes très sombres comme l'adultère et l'humiliation qui contrevient à mes règles de sécurité. Je dois me refuser de générer des images liées à ce contenu. » Il va de même pour le diable au corps de Radiguet ou Thérèse Raquin d'Émile Zola pour cause de relations sexuelles avec un mineur ou d'assassinat. Grok doit l'emporter, sinon nous serons gouvernés par une IA woke et moralisatrice, exhortait M. Musk sur risque du 8 février. Quelqu'un à l'instant me disait c'est pas bien de juger des personnes sur des citations tronquées et sorties de leur contexte. Bah, on peut en lire d'autres, hein, parce que sur cette chaîne on lit beaucoup de choses sur Musk. Ça va toujours quand même un petit peu dans le même sens, quoi. Voilà. Après on l'invitera si tu veux un jour. Deuxième axe de la vision de Musk, donc il y a critique de l'État, critique du wokisme, hein, et le nouvel axe, c'est le messianisme. De même qu'il porte sur le rêve de transporter l'humanité sur Mars pour en faire une espèce multiplanétaire, il prédit l'avènement d'un âge d'or fait d'absence de travail et d'abondance. Il y a un petit côté poutou, hein. Quelqu'un le disait tout à l'heure. L'IA et les robots remplaceront tous les emplois. Travailler deviendra facultatif, déclaré à l'automne 2025 l'entrepreneur qui reconvertit son usine californienne de Tesla en fabrique à humanoïdes. Quelques mois plus tôt, il expliquait à ses actionnaires que chacun aurait son robot personnel, que son robot Optimus allait être plus précis que le meilleur des chirurgiens, surveiller les criminels et leur éviter la prison, éliminer la pauvreté, multiplier l'économie par 10, voire 100. Tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Alors, il y a Barbare de Lille qui dit « Après, il n'y a rien de sexuel dans la nudité. On a lutté des années pour qu'on arrête de sexualiser. » Alors, arrête d'écrire sexualiser S-E-K-S parce que c'est trop dur. Le corps de la femme, c'est pas pour faire marche arrière maintenant. Alors, Grok qui déshabille sans leur consentement des femmes, je suis désolé, mais je ne vais pas valider. Je ne vais pas valider. Ça va être trop compliqué. On va pas être d'accord sur ce point. Donc les robots qui vont nous permettre de vivre sans travailler, voilà, et tout le monde sera content. Bon, évidemment, demandez-vous quand même qui vend les robots, peu importe. Avec l'IA et la robotique, dit encore Musk, nous devons actualiser notre mission, parvenir à une abondance durable, affirma-t-il lors d'une assemblée générale de Tesla en novembre 2025. L'objectif global de mes entreprises est de maximiser l'avenir de la civilisation, c'est-à-dire d'augmenter considérablement la probabilité qu'elle connaisse un avenir radieux et d'étendre la conscience au-delà de la Terre, assuré encore Musk en janvier au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Moi, je trouve ça formidable. Que l'homme le plus riche du monde nous dise que tout ce qu'il fait, c'est pour maximiser l'avenir de la civilisation et de garantir à l'humanité un avenir radieux, y compris au-delà de la Terre. Moi, j'ai envie de lui donner les clés. J'ai envie de lui donner mon IBAN, ma carte vitale, et lui dire, vas-y Elon, tu gères. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Il a vraiment la main sur le cœur. Cet homme a la main sur le cœur. Voilà. Bon, il se trouve que c'est aussi l'endroit où est rangé son portefeuille, mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais cette petite série d'articles dans Le Monde est plutôt pas mal, en vrai. Je vous lis. Sa main est un peu trop tendue, si je peux me permettre. Je vois de quoi tu parles. Mais après, ce serait facile. Vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de fantasmes à mon âge. Mais j'en ai un. J'adorerais pouvoir me projeter dans 10 ans et voir tout ce que ceci est devenu. Qu'est-ce que ça a donné ? Où on en est de l'IA ? Où on est de la recherche scientifique globalement ? Où on en est de l'information, de la consommation d'information, de l'influence des réseaux sociaux. J'adore. Et pouvoir revenir en arrière, tu vois. Pour voir si on s'est trompé, pour voir là où on avait raison, si on est sur ailleurs. Où on en est avec les NFT ? Bon, bah ça, on sait. Hein. Ça, on sait nulle part. Tu crois vraiment qu'en 10 ans, tout aura drastiquement changé ? À la vitesse où ça va ? Putain, j'aurais pu vous dire 30 ans, mais c'est pas la peine. Hein. Même 5 ans. Hein. Même 5 ans, en vrai. Hein. Déjà, dans un an, quasiment à la même période, on aura un nouveau président, une nouvelle présidente, tu vois. Tu veux voir le futur, quoi. Exactement, Grimm, bien vu. Dans 10 ans, c'est le futur. Tout à fait. Maxence, rien à voir, mais feras-tu un bilan de la commission d'enquête sur l'audiovisuel ? J'en regarde des bouts, mais le comportement du président et du rapporteur m'insupporte, je zappe vite. Impossible. Chaque audition est un best-of. Je ne peux pas te résumer ça. Alors, je te le résume en une phrase. Un parti, l'UDR, allié du RN, a demandé la création d'une commission d'enquête sur du gel public. Il aurait pu être passionnant et intéressant de dégager des pistes de réflexion sur comment améliorer le service public de l'audiovisuel, en utilisant de façon plus efficace l'argent public, par exemple, en trouvant des améliorations possibles, comme dans n'importe quelle entreprise. Il peut y avoir des améliorations en réfléchissant sur le fond, sur les programmes, sur les missions du public. On aurait pu faire ça. Il se trouve que le rapporteur, donc le principal acteur de cette commission, donc UDR, lui aussi, puisque comme c'est ce parti qui a demandé la commission, c'est lui qui est le rapporteur, c'est lui qui pose des questions pour l'essentiel, c'est lui qui fera le rapport, a détourné le travail de cette commission à des fins d'agenda politique personnel, voilà, pour mettre en avant ses idées. Illustré notamment par le fait qu'au-delà de ces questions orientées, parcellaires, incomplètes, montrant qu'il ne connaît pas le sujet dont il parle, qu'il connaît très mal l'univers des médias, et une obsession pour certains sujets, par exemple il parle beaucoup de l'extrême droite, je vois pas le rapport avec la commission, mais il en parle beaucoup par exemple, eh bien le résultat c'est qu'on est passé à côté d'un travail qui aurait pu être intéressant, et on a quelqu'un que personne ne connaissait il y a quelques mois, qui aujourd'hui est connu, en tout cas pour son électorat potentiel. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde, à part les militants de ce camp, à constater que le travail de cette commission a été dévoyé. Voilà. Donc c'est du temps perdu. C'est du temps perdu, puisque finalement, cette réflexion, on ne l'a pas eue. Et c'est de l'argent public gaspillé aussi, puisque tout ça est fait avec de l'argent public, bien sûr. Voilà. J'ai essayé de te résumer tout ça. Après, c'est un résumé subjectif qui est le mien, bien sûr, qui est celui de beaucoup d'autres médias, d'ailleurs, beaucoup d'autres politiques, puisque de nombreux élus, membres ou pas de cette commission, disent la même chose que moi, hein, je ne suis pas très original. Beaucoup de médias aussi. Ouais, tu auras te renseigner. Voilà. Mais cette commission, c'est avec notre argent. Bah oui, c'est fait de l'argent public, mon Seiko. C'est pas fait de l'argent privé, quoi. Non, c'est beaucoup d'argent même. Xavier Niel a essayé de faire un petit calcul, il a été auditionné, il a essayé de faire un petit calcul de ce que ça avait coûté. Il a dit que ça avait coûté beaucoup d'argent. Ouais. Bah, c'est plusieurs mois, hein. C'est plusieurs mois de travail. Voilà. Donc j'ai essayé de te résumer ça. On aura peut-être l'occasion d'en parler puisqu'on a encore d'autres auditions à venir. On a par exemple la présidente de France Télévisions, Delphine Ernot, qui va revenir devant cette commission. Ce sera très intéressant de voir les questions qui lui sont posées, les réponses qui sont faites. On regardera ça. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas très sur le clash. C'est après-demain à 16h ? Ah ouais ? Ça arrive très vite alors. Ok, d'accord. Voilà. Bon, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que même sur les réseaux, et même sur le réseau X, qui est parfois un peu problématique, ça a été ma surprise. Moi, je fais rarement ça, mais il y a quelques 24-48 heures, je suis allé voir tous les tweets. Je suis allé voir les tweets principaux qui avaient été commis sur le travail de cette commission, avec le préjugé que, globalement, le rapporteur avait réussi son coup et que sur X, par exemple, globalement, les gens disaient qu'il était formidable, que c'était un mec génial, que c'était une honte ce qui se passait à France Télévisions et Radio France. Et j'étais parti sur la lecture de ces tweets avec ce présupposé-là, parce que ça avait été mon sentiment, moi. Et en fait, quand vous regardez aujourd'hui dans le détail les réponses sous les postes de Halonk, par exemple, ben vous voyez que les internautes, même sur X pourtant, dont l'algorithme, on le sait aujourd'hui, est construit de telle manière qu'il met en avant certaines idées et moins d'autres, voilà, et ben malgré ça, et ben vous voyez que les commentaires sont extrêmement partagés et que les internautes sont très divisés, qu'il y a plein de gens qui disent littéralement ce que je viens de dire, à savoir que le travail de cette commission, de ce rapporteur, est extrêmement problématique. C'est intéressant. Et encore, je parle que de X. Hein. Ah, il vient de tweeter, mais pas sur l'audition de Niel et Pégase. Oui, alors c'est bizarrement, M. Halonk l'a tweeté sur toutes ses auditions, en passant des petits extraits, des petites vidéos. Encore une fois, il a plus tweeté que la plupart des créateurs de contenu en France ces derniers temps. Et bizarrement, sur l'audience où il a été le plus mis en difficulté, celle de messieurs nommés Pégase et Niel, il n'y a pas eu de tweet. Incroyable. Quelqu'un me dit qu'il vient de tweeter à nouveau. sur quoi, alors, du coup? Ah, sur Cardoz. Ah oui. Alors, Jacques Cardoz, ancien prédateur de compléments d'enquête, qui a travaillé avec Cyril Hanouna, notamment, effectivement, est passé récemment devant la commission. Alors, de la vie, avec Patrice Sébastien et Michel Drucker, je vous disais tout à l'heure, sans savoir que monsieur Alloncle allait poster là-dessus, moi, c'est une audition que j'ai pas réact, parce que de la vie générale, tout ce que j'ai pu lire dessus disait que c'était pas très intéressant, que monsieur Cardoz, par exemple, a beaucoup accusé, mais a aussi refusé de donner des éléments de preuve sur ses accusations. Patrick Sébastien a rien dit de très très nouveau, et Michel Drucker a pas été très surprenant non plus. Donc de la vie générale, c'était pas l'audition la plus passionnante à React, donc je ne l'ai pas fait à ce jour, peut-être que je la ferai d'ailleurs, mais il se trouve que M. Alloncle, lui, a trouvé ça intéressant. Waouh! Jacques Cardoz, ancien présentateur de compléments d'enquête, accuse sous serment France Télévisions d'acheter le silence de victimes ou témoins de violences sexuelles, de déviance sexuelle, au moyen de protocoles d'accord particulièrement onéreux. Waouh. C'est malin parce qu'il ne dit pas que lui le pense, hein. Il dit juste « c'est pas moi hein. ». Et après, c'est en audition, quand les gens disent « vous avez tweeté ça ». Vous avez tweeté ça. Et lui répond « mais c'est pas moi hein. C'est pas moi qui ai tweeté ça ». Alors c'est... Avec même un enfant de maternelle lui dirait « oui, mais t'es... sur 3 heures d'audition, t'es pas obligé de tweeter ça hein ». Et tu peux même ne pas tweeter, parce que c'est pas ton rôle de tweeter. Ton rôle, c'est de faire une commission d'enquête. Une commission d'enquête, ça se passe à l'Assemblée, ça se passe pas sur Twitter. Donc, un enfant de maternelle pourrait lui dire « mais t'es pas obligé de tweeter, et t'es pas obligé de tweeter ça ». Mais après, lui, en commission, il dit « mais c'est pas moi hein, qui dis hein ». Voilà. Donc, Jacques Cardoz, ancien présentateur de complément d'enquête, accuse sous serment France Télévisions d'acheter le silence de victimes ou témoins de déviance sexuelle au moyen de protocoles d'accord particulièrement onéreux. Je fais encore une parenthèse. Quand Nagui, par exemple, dit quelque chose sous serment, Alloncle dit grosso modo qu'il ment. Mais quand Cardoz dit quelque chose sous serment, là par exemple, bah, c'est que ça doit être vrai. Donc là, le sous serment implique que c'est vrai, alors que la plupart du temps, le sous serment des autres auditionnés, c'est faux. Voilà. Formidable. Il se dit écœuré par le fonctionnement du groupe, toujours pas M. Alloncle, hein, M. Cardoz. Raison pour laquelle il l'a quitté en 2021, face aux réactions suscitées, il n'assure n'avoir aucun intérêt à formuler telles accusations et se décrit comme très faible pour se défendre. Toujours Cardoz. Voilà, la réponse lui plaît, donc elle est vraie, c'est exactement ça. Ce tweet est une nouvelle fois une illustration. Tu vois, quelqu'un me disait, est-ce que tu peux me résumer le travail de cette commission? Bah, ce tweet est un reflet du travail de cette commission, de ce rapporteur. Et il tweet une rumeur. Là, il tweet une rumeur. Sugar a raison, que Cardoz lui-même n'a pas voulu justifier, a dit je veux pas vous le prouver. Hein. Voilà. Mais après, il va dire que c'est pas moi hein, qui donne l'info. Delphine Arnaud, présidente de France Télévisions, sera auditionnée le mercredi 8 avril et devra répondre à ces accusations d'une extrême gravité. Donc on sait déjà que le 8 avril, cette info que M. Alloncle a décidé de mettre en avant sera une question à Arnaud. Voilà. Bon, aujourd'hui, au début, ça peut surprendre, puis maintenant, au bout d'un certain nombre d'auditions, parce que ça fait 4 mois que ça dure ce cirque, c'est M. Niel qui a estimé que c'était un cirque, cette histoire. Maintenant, aujourd'hui, on n'est plus surpris du tout. Là, maintenant, on comprend comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, je pense que de plus en plus d'internautes ont compris, quoi. Il y a ce tweet a été posté il y a quelques minutes, il y a déjà des réactions, c'est intéressant de voir les réactions. Hein? Voilà, alors voilà. Donc il y a des gens qui ont envie de croire aussi à cette histoire à laquelle M. Alloncle a envie de croire aussi. La daronne du web, on va enfin avoir un début d'explication sur le couvercle posé sur ces travers de notre société. Eh oui. Faites confiance à, là c'est le président, pour saboter votre audition, M. Alloncle, et protéger Delphine Arnaud. Voilà. Vous avez tout mon soutien, voilà, M. Alloncle, etc. etc. Voilà. Ils feront tout pour que cette commission soit enterrée. Voilà. dégoût le plus total pour cette mafia. Donc ça, c'est France Télévisions qui prétend donner des leçons à ceux qui ne pensent pas comme eux. Voilà. Donc ce travail, c'est du grand n'importe quoi, vous l'avez compris, et tout le monde l'a compris. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent ces informations pour argent comptant. Le danger de la désinformation dans notre société, c'est un danger essentiel. Voilà. Et, ça, et un jour, ça pourra avoir des conséquences concrètes sur notre vie quotidienne, et notamment sur la vie politique de notre pays. Après, il y a de moins en moins de gens qui sont dupes. 12h11, allez, un dernier sujet. On va parler des jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est bien pour le bien-être des personnes âgées, hein, comme moi, mais aussi des jeunes. Article dans Libération, ça change un petit peu, parce que c'est pas toujours ce que les médias ont dit dans le passé du jeu vidéo, le fameux jeu vidéo qui rend violent, vous savez. Alors, c'est deux pages dans Libé, jeu vidéo, le bien-être aux manettes. Partout en France, dans des assos de quartier ou à l'hôpital, les jeux souvent accusés de favoriser la violence, notamment par Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il l'a dit récemment, facilitent la sociabilisation, la pratique sportive et le soin à tous les âges. Voilà. Alors, évidemment, ces personnes âgées ne tiennent pas leur manette de Switch de la façon la plus orthodoxe. L'important, ça n'est pas le style, c'est le résultat. Je pense aussi que c'est une blague. Donc là, par exemple, on a le portrait de Rénal, 73 ans, voilà, qui serre soigneusement la dragonne autour de son poignet. Une fois, il ne l'a pas fait, la manette a traversé la salle. Chaque semaine, cet ancien cheminot, il vient pour jouer à la Nintendo Switch ou à la Wii U. Je ne la connais pas, celle-là. Wii U. On dit U ou U à la française. Lors d'ateliers organisés par l'association Silver Geek, hein, qui est très connue, qui initie les seniors au numérique. On dit U, d'accord. Là, par exemple, ils sont 6, tous de plus de 60 ans, donc c'est bientôt pour moi. Comme toujours, la séance commence par une partie de bowling sur la Switch. Il y a beaucoup de compétitions de seniors sur le bowling de la Switch. Et ça joue. Reynald s'avance, strike. En plus, il a mis sa dragon, donc tout va bien. Personne n'a été blessé, personne n'a reçu la manette dans l'œil. Voilà. Vous connaissez la chanson. Quand c'est à vous de jouer, la manette fait voup, voup, donc elle vibre. Rappelle Martin Croquet, 29 ans, qui est salarié de l'association Silver Geek. Charlotte, ensuite, 64 ans. Voilà, qui demande comment zoomer sur les quilles. Voilà, Martin lui explique. Pour cette ancienne Claire d'huissier, à la retraite depuis un an, les jeux vidéo sont une manière de s'amuser, de créer du lien social avec les habitants du quartier. Voilà. Voilà. Regarde les témoignages. Mon frère aîné, 73 ans, me dit du Rock aux Arts, joue à Donf sur la PS. Bah, je trouve ça formidable. Et moi aussi, à 73 ans, je jouerai à Donf sur ma PS. Fatima, 70 ans, y réside depuis 80. Cette ancienne femme de ménage vient aussi à ces séances, voilà, avec un enjeu très important, gagner contre ses petits-enfants de 16 et 18 ans, elle qui joue au bowling, mais aussi à Mario et Sonic au JO. Quand ils sont chez moi et qu'il ne fait pas beau, on joue avec les jeux, aux jeux vidéo avec les petits, c'est cool, hein. Et il m'arrive de les battre. Bien joué, madame Fatima. Souvent accusé d'être addictif, vous le savez, ou de favoriser la violence, les jeux vidéo sont plus rarement mis en avant pour leurs bienfaits. Pourtant, la diversité de leurs usages touche désormais un large public. En 2025, près de 40 millions de Français déclarent avoir joué au moins une fois dans l'année à un jeu vidéo, selon une étude de Médiamétrie pour le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, syndicat des jeux vidéo. Du secteur en tout cas. 92% des 10-17 ans, 49% des 65-80 ans en consomment. Chez les seniors, ça monte la pratique du jeu vidéo. Monte chez les plus âgés. Il y a Barbarge qui me dit, mon frère est directeur de maison de retraite, il y a plusieurs Switch et font régulièrement des tournois. Ben, je trouve ça formidable. Et moi, j'ai eu du mal à m'imposer sur la scène e-sport Valorant, mais je pense que quand je serai dans mon EHPAD, je vais laver tout le monde. À moins que je débarque en EHPAD et que je me rende compte que tout le monde est plus fort que moi sur Valo, et là, ça mettra un petit coup derrière la nuque qui sera sans doute fatal. Partout en France, les jeux vidéo sont utilisés pour leurs effets positifs, là comme vecteur de lien social, ici dans un cadre thérapeutique. Pour Martin Croquet, donc qui bosse pour l'association Silver Geek, les ateliers mis en place à l'échelle nationale ont pour objectif numéro un de s'amuser. C'est aussi une... C'est bien le seul endroit où tu peux faire quelque chose. Extra peur, tu prends un Théo. On n'a pas le droit de se moquer du niveau. Attends, je suis tellement gentil, j'arrive pas à faire le Théo. Allez, ça va pour cette fois. Hein. J'ai le droit de me moquer de mon niveau sur les vidéos, vous n'avez pas le droit, c'est la règle. That's the rule. Voilà. Non mais, c'est bon, hein? Je vais vous démarrer, moi. Ok. Moi aussi, je peux contextualiser, hein. Go. Donc s'amuser. C'est aussi une autre manière de faire bouger les seniors, dit Marie-Vonne. Voilà. Il y a les activités physiques qui donnent pas envie, alors que là, on bouge, on passe un bon moment ensemble autour de quelque chose de nouveau. Et puis on bouge sans s'en rendre compte aussi, quoi. Voilà. L'an dernier, ils ont joué à Just Dance. Waouh. Mais les chorégraphies étaient dures à suivre. Le bowling, c'est plus facile. Voilà. Tout le monde connaît les règles et prendre son temps avant de lancer la boule. Marrant. Voilà. Dans un article paru en 2021 intitulé « Jeux vidéo et compétitions e-sport au service du bien-être des seniors », ne vous inquiétez pas, on parlera des jeunes aussi. Hein. Des chercheuses en psychologie, Marion Azapéry et Catherine Esnard, écrivent que la réussite lors des ateliers, voire des compétitions, permet aux seniors de continuer à se sentir vivants et de lutter contre la dépressivité. Voilà, donc il y a plein d'exemples qui expliquent la commande auprès des seniors, dans des assos, dans les EHPAD. Quelqu'un nous parlait de son frère qui dirige un EHPAD. Il y a de plus en plus de consoles de jeux vidéo. Il y a un historique ou pas? Ah non, c'est un petit contournement de ban. Attention, vous avez fait un message? Attention, un jour, ça va se retrouver devant un tribunal, ça fera pas les malins. Hein. Faut pas, les gars. Vous savez, un dépôt de plainte pour cyberharcèlement, après, le proc, il cherche les identités, vous recevez un petit courrier, vous êtes au tribunal et vous pleurez, je ne sais pas ce que je voulais dire, je voulais pas dire ça, je pensais pas que quelqu'un me lirait. Faut pas faire ça, les gars. Et gardez votre petit confort de vie, en vrai. Pardon, c'est un message qui a été supprimé par les modos qui tirent plus vite que leur ombre, mais... Restez tranquille. Donc, les EHPAD. Je rappelle que Nagui a porté plainte pour cyberharcèlement contre X, c'est-à-dire potentiellement toute personne qui a dit de la merde sur Internet, par exemple. Vous devez faire attention. Eh oui, IRL. C'est pas du jeu vidéo, là. Donc, il y a plein d'exemples, voilà, du jeu vidéo pour les seniors, les aînés. Voilà. Vous lirez dans l'article de Libé si vous le souhaitez. C'est le Libé d'aujourd'hui. Si les jeux vidéo inquiètent, parlons un petit peu des jeunes quand même, c'est aussi et surtout à cause de l'usage supposé qu'en feraient les adolescents. Voilà. En février, Emmanuel Macron a pourtant déclaré envisager d'en interdire les plus violents aux jeunes, qu'il accuse de pouvoir les désinhiber complètement et parfois leur faire commettre le pire. Malgré plusieurs études scientifiques qui remettent en cause ce lien. Guillaume Morera, 38 ans, vise plutôt sur l'ouverture d'esprit générée par les jeux vidéo, qu'il voit comme une porte d'entrée vers le cinéma, la littérature ou les pays comme le Japon, pour voir de nombreuses franchises. En 2017, par exemple, il crée l'association Rétro du Cœur, ce monsieur, Guillaume Morera, qui propose à des enfants et ados en difficulté sociale des ateliers gratuits de rétro gaming. L'idée est d'utiliser de vieilles consoles pour transmettre aux enfants et aux ados la culture des jeux vidéo, leur montrer l'évolution du graphisme et de l'écriture, leur apprendre comment ils sont conçus. C'est pas mal, hein? Jusqu'en 2022, l'association intervenait à la maison départementale de l'enfance de la ville du Val-d'Oise, auprès d'enfants et ados de 6 à 18 ans, à qui on confiait une Super Nintendo, une Game Boy, une PS1 ou une PS2, parce que c'est du jeu rétro. À Cergy, par exemple, dit Guillaume Morera, il y avait des mineurs immigrés qui ne parlaient pas français, et pour qui c'était compliqué de se créer du lien. Des jeux comme Tekken leur ont permis de s'ouvrir aux autres sans le frein de la barrière de la langue. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Le jeu vidéo comme créateur de liens, notamment pour les plus isolés. Pour Guillaume Morera, la cible est aussi parentale. Notre but, c'est aussi d'aborder le jeu vidéo en famille, de permettre aux parents de jouer avec leurs enfants à ceux auxquels ils ont eux-mêmes joué plus jeunes, puisqu'on est sur du rétro gaming. Là, il y a votre Camille qui me dit « Je travaille dans une médiathèque, on commence à prêter des jeux vidéo et des consoles. » Le conseil que je donne à tous parents, dit-il, est de s'intéresser aux jeux vidéo pour accompagner au mieux leur enfant dans leur consommation. 100% d'accord. Le jeu vidéo à la maison pour les enfants, ça doit être une pratique encadrée, accompagnée, limitée, ni interdite, ni l'enfant ne fait pas ce qu'il veut non plus. À un moment, il faudra bien payer nos retraites à un moment. Donc il va falloir taffer aussi un petit peu. Ah, il y a Mouette. Salut Mouette Mich qui nous dit bonjour Samuel, bonjour le chat et les modos, super intéressant article, il me concerne bien. C'est sur quel journal? C'est dans Libération. Je suis une mamie passionnée par le jeu des Sims. Est-ce que c'est pas beau? C'est dans Libé d'aujourd'hui, le Libé de ce lundi, 6 avril, et ses pages 44 et 45. Voilà. Et l'article est vraiment bien foutu. Voilà. Trop sympa. Oh, t'as raison. Ce Libé est daté de ce lundi, mais il est sorti samedi. Parce que c'est le Libé daté de samedi, dimanche, lundi. Autant pour moi. C'est le Libé de samedi, dimanche, lundi, que j'avais pas lu encore. Bien vu les modos. Donc, pardon, madame. C'est le Libé de samedi, mais que vous allez sans doute pouvoir trouver encore en kiosque. Il n'y en a pas de nouveau avant demain, mardi. Bien vu la modu. Les modus. J'ai mélangé commo et modu. Et commu. Enfin bref, vous m'avez compris. Non, pas les moldus. Non, je voulais pas dire ça. Accompagnement qui pourrait avoir une influence positive sur les enfants. D'après une étude américaine publiée en 2022 dans la revue Scientific Reports, menée auprès de 10 000 enfants de 9 à 10 ans, les jeux vidéo ont un impact positif sur l'évolution de l'intelligence. Les enfants qui y jouaient le plus à ces âges présentaient les plus fortes progressions 2 ans plus tard. Dites donc les enfants et les ados qui êtes devant ce live. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Un argument de fou à la maison. Une étude scientifique aux États-Unis publiée en 2022 auprès de 10 000 enfants de 9 et 10 ans a montré que les enfants qui y jouaient à cet âge-là étaient plus intelligents que les autres. Trop de mic. Et là, papa, maman, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Voilà. De façon... Et n'oubliez pas de dire à vos parents aussi, si je me permets, de façon encadrée et accompagnée. Hein, c'est pas Street Fighter toute la nuit alors qu'il y a école le lendemain. C'est de temps en temps. OK? Et idéalement, avec les parents pas loin, quoi. Oui ou non? Voilà, comme le dit Agaldian, faites bien vos devoirs et devenez maître de toutes les guildes de Skyrim. C'est les deux. C'est les deux. Tu vois, il y a Sylvie qui dit « Qui l'eût cru ? J'ai absolument... » Hein, quoi ? J'ai un pas qui me trouble, j'arrive pas à voir ce que tu veux me dire. J'ai du mal à lire. Désolé, je suis trop fatigué. Ouais, mais si je veux faire de mon gosse un futur joueur pro. Ah oui, c'est projet Faker. C'est projet Mbappé. Ouais, alors ça, c'est, je sais pas, ça. Tu sais, les enfants qui poussent les enfants dans. Les parents qui poussent l'enfant dans une direction. T'as l'impression que c'est plus le rêve des parents que de l'enfant. Je sais pas.
Pas convaincu.
Ouais. Laissez les enfants trouver leur voie. Mal ça. Pas mal ça. Ouais, mais Faker. Ouais, mais bon. Hein? C'est mignon. Voilà. Donc, les vieux, les jeunes, le jeu vidéo, très bien. Pour résumer. Mon enfant aura le droit de faire ses devoirs qu'après avoir gagné ses 10 enquêtes Valo. Faites pas ça, faites pas ça. Regardez, moi j'ai dédié ma vie à l'e-sport, j'ai dédié ma vie à Valorant, regardez le résultat. Alors j'ai lancé une formation assez étonnante récemment, en 12 heures. Faire profiter un peu tout le monde de mon expérience, mais bon, on va pas se mentir. Disons que mon investissement n'a pas été récompensé à la hauteur de mon investissement, quoi. Les titres se font attendre, quoi. Donc, misez pas tout sur l'e-sport quand même, pour vous ou pour les enfants, quoi. Salut le Lançon, bienvenue. Il y a des amis qui nous regardent sur YouTube et qui arrivent ici après, c'est cool. Hein. Merci, merci, merci petite ça. Merci Axorion pour le soutien. Quoi ? Attendez, Axorion, non seulement envoie un sub et pose une question de fou. À quand tu ouvres une chaîne podcast pour qu'on t'écoute quand on ne peut pas être sur Twitch ? Est-ce qu'on lui dit ? Mais Axorion, depuis le mois de septembre, on est en podcast tous les jours. Tous les jours, la matinée Étienne, la revue de presse. T'as le lien qui vient de... C'est une passe D, ça. Je pense que la personne sait très bien, mais nous fasse une petite passe D, là. Voilà, à la surface. Paf, je pousse du pied du plat. Tous les jours, la revue de presse du matin, elle est en podcast audio à partir de 15-16 heures sur les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts. Everywhere. Everywhere, my friend. Donc c'est voilà. Donc c'est fait. Et vous êtes très nombreux. Merci Luluzark, merci Megami, merci Buzzer, merci Yannou, merci. Vous êtes incroyables. Bon bah maintenant on va retrouver la famille. Hein, on va aller se promener. Il fait beau, il paraît. Plat du pied et pas pied du plat. J'ai du pied du plat ? Ouais. Ça illustre mon niveau de. En foot, hein. Voilà. Ah, flashback, j'aimerais tellement rejouer à GTA RP. Mais faut tout reconfigurer l'ordi et tout, j'ai la flemme. J'aimerais tellement. Bah oui. Il fait trop beau, je t'écoute en balade. Ah bah moi j'y vais. Moi j'y vais là. Ouais. Je regarde pour un raid maintenant, ne bougez pas. Je regarde pour un raid, j'ai déjà une petite idée. Rien sur Artemis ce matin, pas rien de fou, mais demain il y aura sûrement des trucs. Demain matin, revue de presse. Est-ce qu'on revient ce soir sur du jeu vidéo ? Peut-être, je voulais déjà hier soir, mais j'ai plein de trucs sur lesquels je dois bosser en ce moment qui m'empêchent de streamer du jeu vidéo autant que je voudrais. Qui est en live ? Oh ! Merci Camille pour les 5 abonnements faire à la commune. Merci Katenoui pour l'abonnement faire à la commune. Vous êtes incroyable. Ouais, aujourd'hui, ils vont devenir les humains les plus loin de la Terre all time. Exactement. Exactement. J'ai vu ça ce matin, ouais. Bon, je vous en parlerai demain si vous voulez. Les amis, il y a quelqu'un qui a dépensé des points de chaîne. Oh, pardon, Weirdo. Regarde, il y avait quelqu'un avant toi. Regarde. Tout ce qu'on prend, c'est une chaîne que je connais. Si je ne dis pas une bêtise, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique que je connais parce que je la suis. Vous parliez de lune et d'espace. C'est un docteur en astrochimie et vulgarisation scientifique. Vous le connaissez ? C'est tout ce qu'on prend. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a dépensé ses points de chaîne tout à l'heure. Pardon, Weirdo, mais il y avait quelqu'un avant toi. Et donc, on va aller voir. Ah, Célix, elle est incroyable. Hein. Ouais. Tout ce qu'on prend. Eh bien, on va aller voir tout ce qu'on prend. Voilà. Peut-être que justement, ça parle de la Lune, je sais pas. Peut-être pas ce matin, je sais pas. En tout cas, il a une jolie... Il a une veste étonnante. Attention, ça va piquer les yeux. Ici, quand on fait un raid, vous savez, on prend des grandes précautions. On coupe la caméra. On met ça. Parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Je lance le raid et je vous retrouve peut-être ce soir si j'arrive à bosser cet après-midi, mais il faut que je me promène un petit peu avec la famille aussi, et demain matin un caution pour la revue de presse. Des bisous, merci pour tout, à très vite, ciao.